Ça y est, je peux démarrer. Bien, donc vous voyez comment s'intitule cette conférence. Et en fait, j'ai préparé cette conférence lors de l'année internationale de la chimie, qui était en 2011. Parce que, bon, en plus, c'est une histoire que je connais bien, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et parce que c'est assez curieux, ces phénomènes de découverte de la radioactivité, de l'énergie nucléaire, de la fission, etc., ont été faites, ce qui sont des phénomènes physiques, ont été faits en fait par des chimistes, avec des réflexes de chimistes, comme vous allez le voir dans un instant. Et puis c'est vrai que c'est une histoire de femme, il y en a d'autres d'ailleurs que je vous montrerai tout à l'heure, ce qui fait qu'il y a un groupe de la Société française d'énergie nucléaire qui s'appelle le groupe WIN, qui est Women in Nuclear. Alors évidemment, quand j'y vais, elles sont contentes, parce qu'il n'y a que des femmes là, et puis ben, voilà, je raconte une histoire de femme, donc ça leur plaît beaucoup. Donc allons-y. Donc vous allez voir trois parties en fait. Il y a d'abord la découverte du phénomène de radioactivité naturelle. Donc ça c'est Marie Curie avec son mari et Henri Becquerel. Et donc des prix Nobel à la clé, comme vous allez le voir, en 1903 et 1911. Ensuite, il y a la découverte du phénomène, alors que j'aime pas beaucoup, qu'on appelle radioactivité artificielle. C'est pas la radioactivité artificielle, c'est une radioactivité naturelle redécouverte par des moyens artificiels. Mais bon, c'est comme ça, en gros, qu'on l'appelle toujours. Et là, c'est la fille, Irène. Enfin, il y a eu deux filles, je vous parlerai d'ailleurs des deux filles, mais là, c'est Irène, donc qui a épousé Frédéric Joliot, et ils auront tous les deux le prix Nobel de chimie en 1935. Et puis enfin, la découverte de ce qu'on appelle la fission provoquée. Et on va retrouver, là, vous allez le voir, Irène Joliot-Curie avec une contribution extrêmement importante dans cette découverte. Alors, l'histoire de tout ça commence avec les lignées des Becquerel. Et je remonte, vous voyez, au grand-père, en fait, de Henri, qui était Antoine César, l'un des premiers élèves, évidemment, de l'école polytechnique. Tout le monde ne fait pas l'ENSAM, hein, personne n'est parfait. Et il faisait des recherches sur les courants électriques, membre de l'Académie des sciences, bon, etc., professeur au Muséum d'histoire naturelle. Et alors, si je parle de lui, c'est parce qu'il s'installe, en fait, il installe son laboratoire au 57 rue Cuvier, qui est la rue qui borde le Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et c'est là, vous voyez, que vont y travailler pendant 115 ans son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils, tous polytechniciens. Et donc voilà pourquoi il apparaît là dans cette conférence. Alors si le fils de l'un et donc le père de l'autre, Henri, celui dont je vais vous parler ensuite, est là, c'est parce que, bon, lui aussi, vous le voyez, donc il était... Ça se faisait beaucoup, vous avez aussi assistant de son père, vous voyez, il y en a qui ont des assistants parlementaires, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup, les enfants étaient assistants des parents quand ils étaient professeurs. Et il a été un de mes prédécesseurs au Conservatoire national des arts et métiers, où moi j'étais professeur pendant 25 ans. Et lui, c'était sur la chaire de physique, membre de l'Académie des sciences, et il succède à son père au muséum. Et alors, s'il est là, c'est parce qu'il entreprend des travaux sur la luminescence et la phosphorescence, que va reprendre le fils, et l'histoire de la découverte de la radioactivité démarrera à ce moment-là. Alors voilà, Henri, qui s'appelait en fait Antoine, Henri était son deuxième prénom, mais il s'est fait appeler Henri tout le temps. Donc pareil, vous voyez, à l'époque, on pouvait cumuler. Et quand on cumulait, d'ailleurs, on cumulait aussi les salaires. C'est pour ça qu'ils cumulaient. C'est plus vrai aujourd'hui. Hein. Vous pouvez être professeur dans plusieurs grandes écoles, mais vous n'avez qu'un seul salaire, et après, vous êtes payé à l'heure, à 40 euros de l'heure. Quoi. Bon. Donc, mais à l'époque, on pouvait cumuler les salaires. Et donc, il entreprend, vous voyez, les travaux de, il reprend les travaux de son père sur les phénomènes de phosphorescence, et en particulier sur des sels d'uranium. On parlera surtout des... Vous verrez tout à l'heure des lames fines cristallines de sulfate double, d'uranyle et de potassium. Et donc, il entreprend ça jusqu'à ce que Röntgen découvre les rayons X en décembre 1895. Alors, je peux le faire avec ça aussi. Voilà. Donc, on arrive en décembre 1995, et c'est intéressant de faire juste une première toute petite parenthèse pour dire où en est la notion d'atome en 1895. Alors, il faut remonter, vous voyez, en fait, la première notion, ça, vous le savez sans doute, mais je n'hésite jamais à montrer ça, parce que c'est assez bluffant, quand même, comme formule, vous voyez. Démocrite, donc, 4e siècle avant Jésus-Christ, écrit « Le doux et l'amer, le chaud et le froid, les couleurs ne sont que des apparences. En réalité, il n'y a que les atomes et le vide. » Tout ce qui existe résulte des chocs et des combinaisons qui ont lieu entre d'infimes corpuscules insécables. Donc ça, à côté de la physique, c'est même la chimie. Toute la chimie est là. Tout se fait de la même matière et doué de mouvement, les atomes. Et puis, comme il ne pouvait pas les voir, évidemment, il dit bah, les atomes sont invisibles. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la pensée pré-scientifique, c'est-à-dire que ça ne s'appuie pas sur une expérience. Vous voyez, en science, c'est bien, on fait une expérience, on essaye d'expliquer l'expérience, c'est comme ça qu'on fait avancer le Schmilblick. Là, à l'époque, c'était une école de pensée philosophique, quoi. Et lui, il disait, tout ce qui m'entoure, les murs, l'air, un oiseau, etc., une table, je coupe, et à un moment, je ne peux plus couper. Je suis insécable, c'est-à-dire atomos en grec, atome. Et donc, en fait, la matière que j'ai, c'est l'empilement de tout ça. Et puis, il y a des échanges entre tout ça, et ça fait toute la vie qui nous entoure. Donc là, on est au 4e siècle avant Jésus-Christ. On va guère faire de progrès pendant très 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 longtemps, puisque vous voyez, 2000 ans après, Leibniz écrit, il aurait mieux fait de se casser la jambe ce jour-là, comme disait ma grand-mère, car s'il y avait des atomes dans la nature, cela irait contre les plus grands principes de la raison. À l'époque, on ne vous disait pas, mon cher ami, ce que vous dites est complètement déconnant, on vous disait, mon cher ami, ce que vous dites va contre les plus grands principes de la raison. Mais ça voulait dire la même chose. Hein ? Bon. Donc, voilà, là, on est plutôt reparti en arrière. Et puis, en fait, on arrive donc en 1895. Entre-temps, il y a eu Lavoisier, il y a eu Avogadro, des gens dont vous avez entendu parler forcément. Et on arrive au modèle de l'atome, qui est à l'époque le modèle donc de Joseph John Thomson. Mais l'atome, donc, on était d'accord là avec l'atome, on n'avait pas fait beaucoup de progrès depuis Démocrite, si ce n'est sur les dimensions, vous voyez, on était de l'ordre de l'angström, un dixième de milliardième de mètre. J'écris ça parce que des fois je fais des conférences grand public, donc vous savez ce que c'est que l'angström, mais pas forcément tout le monde. Donc voilà Thomson, c'était le patron du laboratoire de physique de Cambridge à l'époque, c'est important pour ce que je vous dirai tout à l'heure. Et donc voilà, c'était une petite bille, mais une petite bille fermée, quoi. Et donc la matière était formée d'un empilement de ces petites billes, qui pouvaient à la rigueur se toucher, mais surtout pas s'interpénétrer. Donc 1895, découverte des rayons X par Röntgen. Vous avez la photo classique de la main de son épouse, Bertha, où on voit effectivement la différence entre tissu mou et tissu dur, et on arrivait comme ça à faire des clichés. Il publie ça en décembre 1895. Il appelle ça rayon X parce qu'il ne sait pas d'où ça vient. Il ne sait pas expliquer l'origine de ces rayons. Il les a découverts d'ailleurs un peu par hasard. Et on va mettre pratiquement 30 ans, c'est-à-dire pratiquement jusqu'en 1925, pour avoir la réponse que vous connaissez, vous, ça vous semble évident maintenant. Mais imaginez une découverte qu'on ferait aujourd'hui que l'on va appliquer, parce que tout de suite on va l'appliquer. Je vous parlais de Marie Curie tout à l'heure pendant la guerre, hein, qui faisait des radiographies, etc. Eh bien, sans savoir d'où ça vient, sans savoir ce que c'est, sauf qu'on sait l'utiliser. Et imaginez une découverte aujourd'hui, vous vous rendez compte, on attend 2047 pour avoir la réponse. C'est assez extraordinaire. Ben, c'est ce qui s'est passé avec ces rayons X. Et donc, l'histoire que je vais vous raconter, la première partie, tient dans les quatre volumes, là, les comptes rendus des séances hebdomadaires de l'Académie des sciences, en France, comme on dit. Et je vais vous montrer un certain nombre d'articles, donc, de ces communications. Donc, 1896, en fait, c'est la découverte des rayons uraniques par Becquerel. Je vais commencer par vous raconter cette histoire. Donc je reprends la planche, là, celle-là vous l'avez déjà vue, c'est-à-dire que je ferme la parenthèse sur la situation en 95, et donc on arrive à, vous le voyez ici, la dernière semaine de février 96, semaine décisive. Alors semaine décisive, c'est un peu le temps comme aujourd'hui, vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, Becquerel, ayant connaissance de la découverte des rayons X par Röntgen, se dit, est-ce que c'est pas la même chose, dans le fond, depuis le temps que je m'ennuie, là, avec des phénomènes de phosphorescence, luminescence, etc. Alors, vous savez, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met ça au soleil, en gros, il met ça sous la lumière, et puis, effectivement, après, quand il remet dans le noir, il voit les phénomènes de phosphorescence ou de luminescence, et donc, il étudie ça sur, vous l'avez vu, des sels de sulfate d'uranyle et de potassium, On a tous vu, hein, c'est un peu une image d'Épinal, Becquerel qui met ça sur sa fenêtre de laboratoire, là, au soleil, et puis il range ça dans son laboratoire, il met ça sur une plaque photographique, et puis ben, la plaque est impressionnée, et donc il pensait que c'était de la phosphorescence. Manque de chance, vous le voyez, ça c'est écrit dans son... Vous verrez d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, on a du mal à lire, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Le 26, ben, c'est soleil jusqu'à 10 heures. Le 27, soleil de 15 à 19 heures. Et puis après, c'est gris jusqu'au dimanche 1er mars. Alors, dimanche 1er mars, alors pourquoi c'est une semaine décisive? Eh bien, parce que les académiciens se réunissent tous les lundis matin. Et quand vous faites une découverte, vous savez, ce qui est important, c'est qu'il faut prendre date le plus vite possible. Parce que si vous êtes en train de découvrir un phénomène que personne n'a jamais vu, vous n'êtes pas le seul, hein. Il y en a d'autres quelque part qui en disent pas plus que vous et qui travaillent sur la même chose. Et c'est le premier, évidemment, qui va trouver, bah, qui sera l'inventeur de la découverte. Bon. Or, c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va très 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 vite, c'est de faire une publication à l'Académie des sciences. Vous dites à un académicien que vous connaissez, à notre niveau, on a tous des académiciens dans nos poches, c'est pas un problème. Tiens, voilà, j'ai inventé le fil à couper le beurre. Est-ce que vous pouvez déclarer ça? L'académicien, en séance le lundi, ne se mouille pas. Il dit, ah bah écoutez, monsieur machin me dit qu'il a découvert le fil à couper le beurre. Moyennant quoi, clac, à partir de ce moment-là, de cette date-là, on sait que vous avez inventé quelque chose. Et donc ça prend date pour la communauté internationale, toute la communauté scientifique. Bon. Donc voilà pourquoi c'est important, si vous voulez, de travailler même jusqu'au dimanche quand vous voulez faire une publication. C'est ce que fait donc Becquerel, mais voilà, là, ça marche pas. Donc on arrive, vous voyez, à voir son papier. Ça, c'était ce qu'il avait d'habitude. Vous avez une espèce de croix de Malte ici, vous voyez, qu'il interposait. Et vous le voyez là-haut, le soleil le 27, lumière diffuse 26. Vous retrouvez ce que je vous disais, développé le 1er mars. Développé le 1er mars, il s'aperçoit que ben il n'y a pas eu de soleil et que ben, il y a un signal, on le voit là. Alors il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça quand même? Normalement, ça n'a pas été excité, donc je devrais rien voir. Bon, or il voit quelque chose quand même. Le lendemain, donc 2 mars, ben, il fait sa communication à l'Académie. Pardon, je n'ai pas appuyé sur le bon, voilà. Compte rendu de l'Académie des sciences, séance du 2 mars 1896. C'est pas la première, c'est un petit peu plus loin. Je vous le mets ici parce que là, c'est pas très lisible. Sur les rayons invisibles émis par les corps phosphorescents, note de monsieur Henri Becquerel. Alors lui, il était membre de l'Académie, donc il n'a pas besoin de donner son papier à un académicien. Il faisait la publication lui-même. Bon, alors là, il dit des bêtises, hein, on est d'accord. C'est pas du tout des corps phosphorescents. Nous, on le sait aujourd'hui, hein, mais bon, là, voilà. Et plus loin, il met ça. Vous voyez, les expériences que je rapporterai ont été faites avec les radiations émises par des lamelles cristallines de sulfate double d'uranyle et de potassium, corps dont la phosphorescence est très vive. À voir. On peut vérifier très simplement que les radiations émises par cette substance, quand elle est exposée au soleil ou à la lumière diffuse du jour, donc ça c'est complètement faux, on le sait aujourd'hui, traversent non seulement des feuilles de papier noir, mais encore divers métaux, par exemple une plaque d'aluminium et une mince feuille de cuivre. Bon. Alors, malgré tout, quand même, on sent qu'il y a quelque chose qui le gêne, parce que c'est quand même un bon scientifique, hein, il va avoir le prix Nobel, quand même. Bon. Et sur la fin, il écrit « J'insisterai particulièrement sur le fait suivant, qui me paraît, et qui va pas du tout avec le titre qu'il a mis tout à l'heure, d'ailleurs, à sa publication. Les mêmes lamelles cristallines, vous voyez, placées en regard de plaques photographiques, dans les mêmes conditions, au travers des mêmes écrans, mais à l'abri de radiations incidentes et maintenues à l'obscurité, produisent encore les mêmes impressions photographiques. Je pensais aussitôt que l'action avait dû continuer à l'obscurité. » C'est-à-dire, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, il reste quand même sur le côté phosphorescence, et il pense que, ben, voilà, on l'a mis à l'obscurité, mais malgré tout, le phénomène il est tellement puissant qu'il continue même à l'obscurité. Et alors, évidemment, il va reprendre ses travaux, et donc, 3 semaines après, séance du lundi 23 mars 1896, c'est d'ailleurs la première publication, elle est là, sur les radiations invisibles émises par les sels d'uranium, note de M. Henri Becquerel. Donc vous voyez la différence, hein. Le 1er mars, c'est émis par des corps phosphorescents. Et trois semaines après, c'est émis par... sur le reste, c'est le même titre, hein, par les sels d'uranium. Hein. Donc, on voit tout de suite la différence. Donc, là, il dit, voilà, je suis face à un phénomène bizarre qui est dû à l'uranium. Alors, évidemment, entre-temps, il reprend... je vous disais, c'est un bon scientifique. Hein. Donc, il change de sel, il prend d'autres minerais, etc. Bon, et il s'aperçoit qu'il a toujours le même signal. Donc, il dit, c'est bien l'uranium. Et il appelle ça des rayons uraniques. Alors, vous allez vous dire que c'est une découverte formidable, sensationnelle, ça fait les gros titres des journaux, etc. Pas du tout. Tout le monde s'en fout. Pourquoi ? Tout simplement parce que personne ne connaît l'uranium à part les céramistes et les potiers, qui savent que les sels d'uranium ont des très jolies couleurs, des très jolis jaunes, des très jolis verts. Mais c'est les seuls à connaître l'uranium. C'est tout au bout de la classification, très loin. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'uranium. Donc, une découverte de rayons uraniques, d'uranium, tout le monde s'en fout, quoi. Bon. Donc, le soufflet va retomber. Mais, vous le savez comme moi, ça va quand même être une découverte importante. Donc, on peut refaire une toute petite parenthèse. Et où en sont tous ceux dont je vais vous parler maintenant? Où est-ce qu'ils en sont en 96? Alors vous avez ce que j'ose pas appeler les seniors, mais enfin les quadragénaires, allez, on va dire à peu près, vous voyez, Henri Becquerel, Pierre Curie, Thomson, Max Planck également, hein, donc ils sont, voilà, ils ont à peu près 40 ans. Marie Curie est un petit peu plus jeune. Rutherford, dont vous avez entendu parler, il a que 26 ans, c'est vrai. Einstein n'a que 17 ans, hein. Niels Bohr, 11 ans, Lise Meitner, 18, et Otto Hahn, 17. Chadwick, qui va découvrir le neutron, il n'a que 5 ans pour l'instant. Schrödinger, il a que 9 ans. Louis de Broglie et sa mécanique ondulatoire, ça va attendre un petit peu, il n'a que 4 ans. Et Arthur Compton, il n'a que 4 ans également. Bon. Et puis, vous avez les moins quelque chose. Hein. Donc, Irène Curie, vous voyez, elle n'est pas encore née, dans un an. Joliot, dans 4 ans. Pauli, également 4 ans. Heisenberg, 5 ans. Enrico Fermi, moins 5 ans. Oppenheimer, 8 ans. Teller, il faut attendre encore 12 ans avant sa naissance, et Cyborg, dont on parlera aussi tout à l'heure, donc encore 16 ans. Donc voilà un peu tous ceux dont on va parler, un petit peu où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils en sont pas. Alors, faut être tout à fait honnête, on a un collègue d'ailleurs qui milite à la SFEN avec le président Yves Fournier, qui s'appelle Jean-Claude Niepce, qui est un descendant donc de Nicéphore et de Abel, et qui dit, oui, mais en fait, c'est tout à fait vrai, ce petit cousin, alors il s'appelait, pardon, c'est pas ce que je veux faire, il s'appelle Abel Niepce, et en fait, il se faisait appeler de Saint-Victor, parce que vous pensez que c'est mieux de s'appeler de Saint-Victor, quoi. Bon. Donc, et en fait, il a observé qu'est-ce qu'il faisait à lui. Après la découverte donc des photographies, c'était le premier à coloriser des plaques photographiques. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'uranium a très jolie couleur, et il voulait utiliser des sels d'uranium pour faire des jolis jaunes, des jolis verts, etc. Et manque de bol, ça lui donnait une espèce de patatoïde toute dégueulasse, toute noire. Il n'a jamais compris pourquoi, mais il a dit, il y a quelque chose qui se passe avec les sels d'uranium. Hein. Mais vous voyez, 1858, il pressent l'importance du phénomène, mais il se méprend sur l'origine, il ne fait pas d'expérience. Et en fait, c'est Becquerel, donc il va s'écouler 35 ans entre cette première observation de Abel Niepce et la découverte par Henri Becquerel. Donc, premier stade de cette découverte, un phénomène, on pense là, à ce moment-là, qui ne concerne que l'uranium. Et c'est Becquerel, tout seul. Alors l'uranium, juste un mot sur l'uranium, il a été découvert par un pharmacien qui, dans ses temps libres, essayait de faire un petit peu de découverte d'éléments. Et Martin Heinrich Klaproth donc, le découvre l'uranium en fait en 1789. Je vous mets ça ici parce que c'est quand même assez intéressant, puisqu'on est dans l'histoire des sciences et de... vous voyez, Klaproth publie sa découverte dans les mémoires de l'Académie royale de Berlin. Et vous voyez, à l'époque, on publiait dans les mémoires de l'Académie de Berlin en français, pas en allemand. Hein ? C'est un français. Alors, j'ai laissé exprès les. Vous savez, les F, c'est pour les S. Hein, donc, on faisait les S un peu comme les F. Il faut par conséquent bannir de la nomenclature les noms décevants de Pechblind et de Heisenpeckers. On doit assigner un nouveau nom à ce fossile et il écrit les E comme ça exactement, et le lui conserver exclusivement. Je me prévaux des droits incontestables de tout inventeur et je donne à ce métal nouveau le nom d'uranium ou Uran, emprunté de la planète Uran, en fait Uranus, dont la découverte est également récente. Effectivement, Uranus a été découverte en 1781. Ça vous explique d'ailleurs pourquoi les deux éléments suivants vont s'appeler Neptunium et Plutonium, pour Neptune et Pluton, avant que les Américains, évidemment, qui font ces découvertes, disent « on est trop bêtes, on va faire notre pub ». Alors ils vont appeler ça Americium, Berkelium et Californium, mais on a quand même Neptunium et Plutonium. Donc vous voyez, 1792. Et en réalité, c'est Eugène Péligaud qui, parce que Klaproth avait isolé certes l'élément, mais il avait isolé l'oxyde d'uranium, pas l'uranium métal. C'est Eugène Péligaud, qui était aussi professeur au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, qui va obtenir l'uranium métallique pour la première fois. Alors voilà les couleurs dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà la classification périodique en 1896. Alors évidemment, tout ce qui est bleu clair, c'est ce qui n'existe qu'à l'état radioactif. Hein. Il n'y a pas d'isotope stable. Mais vous voyez qu'il reste aussi quelques trous, le hafnium, qu'on n'a toujours pas trouvé, le rhénium non plus, qui sera le dernier d'ailleurs démontrable qui sera trouvé, le lutécium ici, et puis évidemment, alors là, vous avez le technétium, vous avez le prométhium, et puis ben, vous avez alors, thorium et uranium, on connaît bien sûr, mais tout le reste, non, hein, donc ça reste à faire. 96-98, donc c'est Marie Curie, puis Pierre Curie qui va venir la rejoindre dans ses travaux, qui reprennent ça. Alors, un mot sur Pierre Curie. Donc, il a été instruit par ses parents, il n'a pas perdu de temps à l'école, du coup, il a été très vite, vous voyez, il passe le bac à 16 ans, il est licencié à 18 ans, et il est nommé préparateur adjoint au laboratoire de physique de la faculté des sciences l'année suivante, préparateur en 80, et alors, évidemment, les grandes découvertes, on va dire, des frères Curie, c'est l'effet piézoélectrique, la fameuse loi de Curie que vous avez dû apprendre aussi. Et 1895, vous voyez, est une très grande année pour Pierre Curie. Il passe sa thèse de doctorat le 6 mars. Il est nommé professeur d'électricité et de magnétisme à ce qui s'appelait à l'époque l'école municipale de physique et chimie industrielle de Paris. Et il épouse le 26 juillet une de ses anciennes élèves, Marie Sklodowska. Vous voyez, comme quoi nous, les professeurs, on fait quand même un métier dangereux. Dont je vais vous parler maintenant. Alors, elle est née à Varsovie, ce qui, est, à l'époque, était dans l'Empire russe. Et ben, les filles, une fois qu'elles avaient leur diplôme, vous voyez, là, d'études secondaires, alors évidemment, elle a eu la médaille d'or, bon, ça ne nous étonne plus aujourd'hui. Hein, bon. Mais c'est fini, quoi. Hein, les filles ne peuvent pas continuer à faire d'études. Donc, il va s'écouler un certain temps, elle va mettre de l'argent de côté, elle va être gouvernante dans une famille. Sa sœur a épousé un médecin français, elle est à Paris, et elle met aussi de l'argent de côté pour accueillir sa petite sœur. Et quand toutes les deux ont le pécule suffisant, eh bien, Marie Sklodowska donc, arrive à Paris. Vous voyez, elle s'inscrit donc, le 3 novembre 1991 à la Faculté des sciences, évidemment, reçue première en licence de physique l'année suivante, seconde, celle de mathématiques ensuite. Bon, voilà le diplôme. Alors, c'est même marqué Sklodowski, d'ailleurs, mais normalement, on doit... Mademoiselle Sklodowski, on doit dire Sklodowska, hein, mais bon. Et elle rejoint, vous voyez, en 94, le laboratoire où travaille Pierre Curie sur le magnétisme. Et alors, à l'époque, c'est pareil, c'était assez compliqué, même en France, pour les filles. Alors, une militante, entre guillemets, de la promotion des femmes dans l'enseignement supérieur, arrive à obtenir du ministre qu'on crée une agrégation pour enseigner aux jeunes filles. Bon. Donc, pour l'enseignement des jeunes filles, vous voyez, comme vous le voyez là. Bon, le ministre, il lui voit du feu, donc il dit « Ok, d'accord ». Et à ce moment-là, elle lui dit « Ah ben oui, mais quand même, hein, pour enseigner à des jeunes filles, il vaudrait mieux quand même que ce soit des femmes, quoi. » Donc, ce concours d'agrégation, eh ben, on va l'ouvrir aux femmes. Pas seulement les femmes, mais jusque-là, vous ne pouvez pas, hein, même en France. Donc, on va l'ouvrir aux femmes. Et donc, Marie Curie, donc Marie Skłodowska, pardon, s'inscrit, section mathématiques, reçue première. Oui, bon, ben, d'accord. Hein. Et alors, normalement, vous savez, quand vous avez l'agrégation, ben, vous devez prendre un poste d'enseignant. Hein. Elle veut faire de la recherche. Enfin, heureusement, donc, pour tout le monde. Hein. Elle veut faire de la recherche, donc elle refuse, en fait, le poste d'enseignant, et elle dit, je veux préparer une thèse de doctorat. Et le 26 juillet 1895, évidemment, le même jour que Pierre Curie, ben, elle épouse Pierre Curie. Alors, ils voient là, quasiment en photo de mariée, là, et puis, donc, ils partent en voyage de noces à bicyclette. Et puis, elle dit, bon, ben voilà, il faut que je trouve un sujet de thèse. Bon. Pierre Curie est un camarade d'école de Henri Becquerel. Ils se connaissent donc depuis très très longtemps. Et Pierre Curie dit à Marie, ben, peut-être que tu pourrais reprendre là le sujet de... C'était intéressant le truc d'Henri Becquerel, là, et puis on n'en parle plus, mais ça peut être intéressant, ça pourrait faire quand même un bon sujet de thèse que tu regardes ça. Bon, ok, d'accord. Donc, les voit dans le laboratoire. Pierre lui prépare d'ailleurs un appareil, c'est lui qui fait le premier détecteur que vous voyez ici, c'est-à-dire que vous avez un spot là ici qui se déplace, et évidemment plus il y avait une émission de rayonnement et plus le spot se déplaçait, et donc on voit avec monsieur Bémont là, qui est, non c'est petit celui-là, c'est pas Bémont, pardon, c'est petit, qui était l'assistant de Pierre Curie qui est là à côté aussi. Leur fameux laboratoire là, de la rue Laumont, qui était tout crasseux et tout, enfin bon, on les avait mis hein, dans un petit coin là, de normal sup, peut-être parce qu'on se méfiait aussi des expériences, et on ne sait jamais ce que ça peut donner, il ne faudrait pas que ça explose. Bon. Et donc on arrive le mardi 12 avril 1898, la communication de Marie donc Skłodowska-Curie, là-dessus. Alors, on m'a fait remarquer une fois, « Ah, mais vous nous avez dit tout à l'heure que l'Académie se réunissait tous les lundis, et là, c'est mardi. » Eh ben oui, ben, si vous regardez, vous pouvez aller voir sur Internet, eh bien, vous verrez que le lundi, c'était le lundi de Pâques. Et donc, évidemment, l'Académie ne s'est pas réunie le lundi, mais elle s'est réunie le mardi, exceptionnellement. Mais vraiment exceptionnellement. Donc, séance du mardi 12 avril 1898. Rayons émis par les composés de l'uranium et du thorium. Note de Madame Skłodowska-Curie, présentée par Monsieur Lippmann. Donc là, elle n'était pas à l'Académie. Elle ne sera d'ailleurs jamais à l'Académie. Je vais en dire un mot tout à l'heure. C'est quand même la seule personne au monde, homme ou femme, à avoir eu deux prix Nobel dans deux disciplines de sciences dures différentes. Il y a quatre personnes qui ont eu deux prix Nobel, on l'a dit tout à l'heure. Hein, mais il y en a que le prix Nobel de chimie et le prix Nobel de la paix. Et les autres, ils ont eu deux fois physique, deux fois chimie, mais il n'y en a qu'une personne qui a eu à la fois physique et chimie, c'est Marie Curie. Et depuis 1911, son deuxième prix Nobel, elle a toujours le record. Hein. Bon. Or, à l'Académie des sciences, ben non, c'était une femme. Ben bon, voilà. Bon. Enfin, c'est vrai. Je suis un peu méchant des fois avec l'Académie des sciences, mais je les connais bien. Il y a un peu de copinerie, si vous voulez. Donc, voilà. Faut faire des. Ben, Pierre Curie l'avait dit lui-même, d'ailleurs. Faut inviter les académiciens au restaurant. Faut leur dire, voilà, je suis très bon, vous savez, machin, tout ça. Bon, et lui, ça le pesait. Il voulait pas faire ça non plus. Donc, du coup, il n'y a pas été non plus, et Marie Curie non plus. Et c'est vrai qu'au moment du transfert des cendres des Curie au Panthéon, les académiciens que je connais bien ça, un siècle après, ils étaient encore complexés. Hein. C'est-à-dire, ils disaient quand même... Oh, là. À un moment donné, ils ont failli faire le truc ridicule de dire « on va l'accepter à titre posthume ». Là, ça aurait vraiment été complètement ridicule. Quoi. Bon. Mais voilà, ils sont complexes, mais bon, c'est comme ça. Et donc, ce que vous avez ici, ce tableau que vous allez voir quand même un petit peu mieux dans un instant, c'est la découverte. C'est là. Voilà. Que fait Marie Curie? Alors, Pierre Curie est un physicien. Henri Becquerel est un physicien. Marie Curie est une chimiste. Donc, les physiciens ont trouvé un phénomène sur des sels d'uranium, sur des minerais d'uranium, bon, avec un certain signal. Marie Curie, qui reprend ce phénomène, a un réflexe de chimiste, s'est dit, ben, plutôt que d'étudier sur des sels et tout, je vais isoler l'uranium, je vais purifier, je vais récupérer l'uranium. Et ce signal que Becquerel a vu un petit peu, je vais le voir beaucoup plus, puisque je n'aurai que l'uranium. Et elle le voit beaucoup moins. Voilà comment on fait une découverte. Le premier stade, évidemment, on commençait à vous arracher les cheveux, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, vous le faites, vous le refaites, vous le refaites, vous le refaites, et vous trouvez toujours la même chose. Il y a un truc. Bon. Alors, vous voyez, voilà. Alors, vous avez uranium métal, bon, c'est intensité picoampère, donc c'est le signal que vous avez vu sur l'appareil tout à l'heure. Donc, uranium métal 24. Bon. Oxyde de thorium, elle trouve aussi dans l'oxyde de thorium en même temps un signal. Et puis, voilà, là vous avez les minerais. Là, il y a 24. C'est-à-dire qu'en gros, elle a purifié. Elle avait 83 et 67, elle obtient 24. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Vous le voyez, elle synthétise une chalcolite. C'est assez simple comme élément. Vous voyez, il y a bien de l'uranium et du phosphate, du cuivre. Bon. On peut la synthétiser facilement. Mais ça existe aussi dans la nature, donc des vieilles qui ont des centaines de millions d'années, voire milliards d'années. Et bien sûr, dans celles qu'elle a synthétisées, elle retrouve 24, ce qui est logique, et dans l'autre, elle a 52. Bon. Donc, elle se dit, est-ce qu'il n'y a pas, dans la gangue, en gros, de mon minerai, là autour, des éléments plus émetteur de rayonnement que l'uranium lui-même. Alors elle dit, je ne vais pas trimballer le mot émetteur de rayonnement toute ma vie comme ça, donc il faut que j'invente un mot. Donc elle invente le mot radioactif. Et donc elle dit, est-ce qu'il n'y a pas, dans la gangue du minerai, des éléments plus radioactifs que l'uranium lui-même? Et c'est là qu'elle entreprend de touiller là, ses chaudrons, vous avez peut-être vu les images aussi. Elle s'aperçoit qu'elle concentre donc cette radioactivité, appelons-le comme ça dès maintenant, en précipitant d'une part avec des sels de bismuth et d'autre part avec des sels de barium. Alors, elle s'en aperçoit comment? Tout simplement avec le détecteur de Pierre Curie. Donc, quand elle précipitait, elle a dû essayer des tas de précipiter, si vous voulez. Puis, il y a des fois, il n'y avait rien. Et puis là, elle concentrait quand c'était soit avec du bismuth, soit avec du barium. Bon. Il y a une chose dont je vous reparlerai tout à l'heure, c'est cette ligne ici. Mais je vous en reparlerai plus tard. Et donc, on arrive le 18 juillet 1898 sur une nouvelle substance radioactive, ça c'est écrit comme ça, contenue dans la pêche blinde, note de M. P. Curie et Mme S. Curie, assez curieusement, ça devait être S pour Skłodowska, hein, présentée par M. Becquerel. Alors, les trois sont réunis là, vous voyez. Alors, la petite étoile que vous avez là, c'est la note qui est ici. Ce travail a été fait à l'école municipale de physique chimie industrielle et nous remercions M. Bémont, chef des travaux, pour les conseils et l'aide qu'il a bien voulu nous donner. Donc ça, c'était très très rare à l'époque qu'on mette d'autres personnes qui avaient aidé en général. Bon, il y avait les grands scientifiques et puis bon, les autres, ils étaient là, voilà, bon. Et eux ont toujours... Et vous allez voir que M. Bémont va signer la prochaine publication même, en tant que donc signataire, en tant qu'inventeur. Nous croyons donc que la substance que nous avons retirée de la pêche blinde contient un métal non encore signalé, voisin du bismuth et de ses propriétés analytiques. Si l'existence de nouveaux métals se confirme, nous proposons de l'appeler polonium, du nom du pays d'origine de l'un de nous. Alors, cette ligne, après, elle est amusante parce qu'il y a une pièce de théâtre qui a été faite à partir de cette histoire qui s'appelait Les Palmes de M. Schutz. Et peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Et alors, on voit M. de Marsay, effectivement, c'est l'histoire réelle, en fait. C'est un copain d'école aussi de Pierre Curie. Mais alors, pour Pierre Curie, c'est quelqu'un qui a mal tourné, c'est-à-dire il est passé à l'industrie, quoi. Et il vend des spectromètres, c'est-à-dire donc pour identifier des éléments, leur quantité, etc. Et puis, il vient leur rendre visite dans l'espèce de laboratoire là que vous avez vu tout à l'heure. Et Pierre et Marie Curie disent, dis donc, depuis le temps, là, que tu nous fascines avec ton appareil qui est soi-disant formidable, qui est capable d'identifier tous les éléments... C'est vrai, ça? Il dit, ah ouais, pas de problème, hein? Bon. Il dit, tiens, allez, essaye ça, là, pour voir. Donc, il le met dans son truc, et puis, évidemment, personne n'a jamais... C'est ça quand vous faites de la recherche. Ce qui est très, très intéressant quand vous faites de la recherche, vous êtes le premier au monde à voir quelque chose que personne n'a jamais vu. Hein? Donc, c'est quand même un peu jouissif, quoi, quand même. Bon. Et vous voyez, il dit, voilà, il n'a pu y distinguer aucune raie caractéristique en dehors de celle due aux impuretés. Bon, effectivement, les impuretés, du coup, voilà, il pouvait les déterminer. Donc c'était déjà quand même un signe pour eux qu'on avait bien affaire à un nouvel élément. Évidemment, on l'appelle polonium. du nom du pays d'origine de l'un de nous, on sait bien qui, hein. Et on arrive au 26 décembre 1898. Donc ça, le polonium, c'est celui qui suivait les sels de bismuth. Et donc, le 26 décembre, vous voyez, l'Académie bosse même entre Noël et Jour de l'An. Hein. Voilà la publication. Voilà, donc Monsieur Pécurie, Madame Pécurie, maintenant elle n'est plus Ascurie, elle est Pécurie. Monsieur Gébémont, présenté par M. Becquerel, une substance nouvelle, fortement radioactive, contenue dans la pêche blanche. La nouvelle substance que nous venons de trouver a toutes les apparences chimiques du barium, puisqu'effectivement, elle suit le barium lorsqu'on précipite les sels de barium. Et à la ligne d'après, les diverses raisons que nous venons d'énumérer nous portent à croire que la nouvelle substance radioactive renferme un élément nouveau auquel nous proposons de donner le nom de radium. Alors, le 3 juin, cette fois-ci, donc 1901, vous avez une note, malgré tout, qui vous montre quand même que très très vite, on a vu qu'il y avait un effet biologique de ces rayonnements. Action physiologique des rayons du radium. Henri Becquerel, alors il y a écrit Henri en toutes lettres, et puis Pécurie, c'est écrit comme ça. Bon, c'est pas très homogène, mais bon, c'est écrit comme ça, on laisse comme ça. Et alors, l'anecdote qui est décrite dans cette page, c'était un peu long, mais je vais vous la raconter. Un jour, Becquerel, qui vient voir les Curie, dit: c'est bizarre, regarde, parce que j'ai une tache rouge là sur la peau. Donc on saura aujourd'hui, ça, c'est une radiodermite, ça s'appelle. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Et Pierre Curie lui dit: ben, tes minerais d'uranium là, tu les mets pas dans la poche de ton gilet là? Redis-tu. Ben, il dit: tu sais pas ce que tu vas faire, tu vas m'en donner, et moi je vais mettre dans les deux poches pour voir. Et donc il met dans les deux poches, et puis 15 jours après, quand il revient, il se lève et dit: regarde, j'ai deux taches. Et ils font la publication. Hein. Donc comme quoi, effectivement, il y a un effet des rayonnements, mal connu, pour ne pas dire inconnu à l'époque, mais il y a bien quelque chose. Et d'un autre côté, vous voyez, ça se termine de cette façon-là, parce qu'effectivement, les mains, ben, c'est ce qui manipule les selles. Là, les mains ont une tendance générale à la descamation. Les extrémités des doigts qui ont tenu les tubes ou capsules renfermant des produits très actifs deviennent dures et parfois très douloureuses. Pour l'un d'entre nous, l'inflammation des extrémités des doigts dure une quinzaine de jours et s'est terminée par la chute de la peau, mais la sensibilité douloureuse n'a pas encore complètement disparu au bout de 2 mois. Donc vous voyez, ça, on est en 1901, hein, donc très 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 vite, on a su qu'il y avait effectivement un effet de ces rayonnements. Alors je reviens à ce tableau et à cette ligne. Et là, quand vous connaissez la mentalité de Marie Curie, c'est très très intéressant. Vous voyez là-dedans, il y a quoi? Il y a du fluor, il y a de l'oxygène, il y a du tantale, il y a du potassium. Il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas de thorium, il n'y a pas ni de radium, ni de polonium, rien. Et elle trouve un signal. Ça, c'est choquant quand même. Alors nous, on sait aujourd'hui, c'est le potassium 40. Hein, mais à l'époque, vous pouvez être sûr que ça, elle l'a fait, elle l'a refait, elle l'a refait, elle l'a refait, elle a trouvé le signal. Ça, c'est ce qu'on appelle la vérité scientifique. C'est-à-dire que elle le met dans le tableau, elle n'en parle pas dans la publication. Il n'y a pas un mot là-dessus. Pourquoi ? Ben elle se dit, si je dis quelque chose, je vais forcément dire une connerie. Donc je ne dis rien. En revanche, la vérité scientifique, elle est là, il y a un signal. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un signal. Un jour, on trouvera, et ben voilà, on met là, moi, je l'ai vu. Bon. Et c'est très très curieux, parce que vous vous attendez, vous le voyez là, bon, vous attendez à ce qu'elle en parle. Pas du tout, il n'y a rien. Juste dans le tableau, parce que le tableau, c'est la vérité scientifique. C'est pas parce que, quand on a trouvé quelque chose, c'est pas parce qu'on n'a pas la réponse qu'on n'a pas trouvé quelque chose. C'est que, on ne connaît pas la réponse, mais on connaîtra, voilà, plus tard. Mais la vérité scientifique peut vous dire qu'il a dû le faire, refaire. Hein. Et elle a toujours trouvé pareil, donc voilà. Et effectivement, il y avait bien un signal, nous on le sait. Donc, vous voyez que l'affaire, voilà, elle avance. C'est-à-dire qu'eux, ils vont montrer donc ce phénomène, en fait, de radioactivité va toucher tous les éléments depuis le 92 pour revenir gentiment jusqu'au plomb et au bismuth, hein, si vous avez la classification en tête. Donc, 7 éléments au total. Mais évidemment, il ne leur serait pas venu à l'idée d'imaginer que du fer puisse être radioactif, que du nickel puisse être radioactif, que l'hydrogène puisse être radioactif, etc. Hein. C'était limité, ça faisait revenir effectivement ces éléments qui étaient instables pour revenir vers des éléments stables, point final. Alors ça, c'est le discours Nobel de Pierre Curie en 1905. Alors ils vont avoir, donc premier prix Nobel pour Marie Curie, donc c'est 1903. C'est l'année de sa thèse, hein, quand même. C'est quand même rare d'avoir passé sa thèse de doctorat et puis d'avoir le prix Nobel la même année. Hein. Bon. Et le prix, en fait, il n'est pas divisé en trois, il est divisé en deux. Il y a la moitié du prix pour Becquerel et l'autre moitié pour le couple Curie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que l'Académie de Stockholm, c'est ce qu'elle a décidé. Alors, vous voyez, ils ont le prix Nobel. Alors, quand vous avez le prix Nobel, vous devez aller faire une conférence qu'on appelle une conférence Nobel. Bon. Alors, regardez, discours Nobel de Pierre Curie, 1905. Or, il a le prix Nobel en 1903. Alors, c'était la troisième année où on distribuait le prix Nobel. C'est pas encore très, très connu. Et on peut imaginer que, puisque Becquerel allait récupérer le prix Nobel à Stockholm, les autres ont dit, écoute, nous, on a du boulot, tout ça, on va pas perdre notre temps à aller à Stockholm. Bon, il n'y avait pas d'avion à l'époque, hein, bon. Donc, écoute, Henri, puisque tu y vas, tu nous ramèneras notre prix. Ah oui, mais le Becquerel, quand il est arrivé là-bas, ils ont dit, ben non, pas question, hein, il faut venir, s'ils veulent leur prix, il faut venir, on doit faire une conférence, bon. Donc, eh ben, ils viendront, et donc ils sont allés deux ans après. Et vous voyez ce que dit Pierre Curie, qui est tout à fait juste, qui est, c'est la responsabilité du chercheur aussi, ça. Chacun d'entre nous, effectivement, lorsqu'on trouve des choses, on se dit, est-ce qu'on est forcément utile à l'humanité? On peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature, si elle est mûre pour en profiter, ou si cette connaissance ne lui sera pas nuisible. L'exemple des découvertes de Nobel est caractéristique. Les explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des travaux admirables. Ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains de grands criminels qui entraînent les peuples vers la guerre. Mais il termine quand même en disant « Je suis de ceux qui pensent avec Nobel que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles ». Pierre Curie, 1905. Ce qui ne sait pas, ce que personne ne sait à l'époque, malheureusement, c'est que, eh bien, il va très vite disparaître. Vous voyez, en 1906, donc, il se fait écraser, vous savez, sans doute, par ce qu'on appelait un camion. C'était en fait une voiture, enfin, c'était un camion, mais c'est une voiture à cheval. Donc, il a glissé, en fait, et puis sa tête s'est retrouvée sous les roues du camion, là, et donc, il est mort donc assez prématurément. Il n'était pas très vieux à l'époque. Et donc Marie Curie va reprendre le poste d'enseignant de Pierre Curie. Et dans sa leçon inaugurale, en fait, le 5 novembre de cette année-là, elle va reprendre le cours là où son mari l'avait arrêté. Hein. Y a beaucoup d'élèves, là, ils savent ça, vous avez des profs. Bon, le prof dit, bon, bah écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui, et la prochaine fois, on reprend. Ah oui, mais il n'y a pas de prochaine fois. Bon, c'est écrasé sur la route, bon. Et Marie Curie reprend le cours exactement à cet endroit-là, un peu pour lui rendre hommage. Alors voilà le livre qu'elle écrit. Vous voyez, ça. Moi aussi, j'ai fait un livre hein, de manuel de radioactivité, mais bon, ce que moi, je ne peux pas écrire, c'est ça quand même. Hein. Ça jette quand même, quoi. Hein. Professeur à la Sorbonne, prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie. C'est quelque chose, quand même. Hein. Alors voilà, vous voyez, voilà, la seule qu'a eu, hein, bon. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, Bardeen, deux prix Nobel de physique. Bon, c'est pas mal d'avoir deux prix Nobel de physique ou de chimie, hein, faut pas pousser, mais bon, quand même, c'est mieux, hein, et autre, voilà. Bon. Donc Pauling, c'est lui qui a eu le prix Nobel de la paix et chimie, et puis l'autre, deux fois, sera un 5 jeux, prix Nobel de chimie. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que donc cette découverte du phénomène de radioactivité par Pierre et Marie Curie et Becquerel, en fait, qui est une propriété nucléaire de l'atome, propriété du noyau, se fait à un moment où on ne sait même pas que le noyau existe. Vous avez vu l'atome, ce que c'est? C'est une petite bille pleine, on ne sait pas ce qu'il y a dans la bille. Hein? Donc, voilà. Et on en est encore au modèle de Thomson. Et au contraire, vous voyez, Marie Curie va prêter une de ses sources de polonium. Alors, quand je lui ai prêté, elle va lui donner, parce que, justement, la radioactivité, ça décroît avec le temps. Hein. Et ça va permettre à Rutherford, justement, de rentrer à l'intérieur de cette bille, soi-disant fermée, et de découvrir cette structure nucléaire. L'expérience, vous la connaissez sans doute, je ne vais pas la reprendre, c'est que, normalement, on envoie des particules alpha ici. La source de polonium, elle est là. Vous avez une lame d'or ici, et normalement, si vous avez un empilement, parce que c'est pas une lame d'or, on prend de l'or parce que c'est très fin, mais c'est quand même 10 000 empilements d'atomes. Hein. Donc s'ils étaient vraiment opaques comme ça, il n'y avait aucune chance pour qu'on récupère un alpha. Ils devaient tous s'écraser, en gros, sur la lame d'or. Alors, c'est ce qu'a voulu vérifier Rutherford. Là, il a mis, il a mis du sulfure de zinc ici à l'intérieur, parce que le sulfure de zinc, si vous voulez, quand il y a un alpha qui arrive, ça fait un petit point lumineux. Mais alors là, ça a été au-delà de ses espérances, parce que non seulement, bien sûr, il a obtenu, il y en avait qui traversaient, mais ça, vous connaissez l'histoire mieux que moi, mais en fait, sur 100 000 alpha, eh bien, il n'y en avait que un qui était arrêté. C'est-à-dire, j'avais 99 999 qui arrivaient en haut ici, hein, comme s'ils n'avaient rien rencontré du tout. Et un sur 100 000 était dévié par quelque chose ici à l'intérieur qui faisait qu'il était un petit peu plus loin. D'où le fameux modèle, évidemment, de Rutherford, qui est le nouveau modèle de l'atome, qu'il publie, vous voyez, le 7 mars 1911, consiste en une charge électrique centrale concentrée en un point et entourée par une distribution sphérique uniforme d'électricité de signes opposés et en quantité égale. Donc les protons d'un côté et puis les électrons, évidemment, de l'autre. Donc à cette date, vous voyez, on ne connaît rien des consistances du noyau ni de la répartition des charges. On sait qu'il y a des charges, etc. Et voilà, l'affaire va continuer. Donc maintenant, c'est la fille de Marie Curie, Irène, et son mari, qui vont apporter une réponse définitive en contribuant à la découverte du neutron et en découvrant cette radioactivité dite artificielle. Et plus tard, Irène Joliot-Curie démontrera la fission du noyau atomique. Donc c'est la deuxième partie. Irène Curie, vous voyez ici, voilà, doctorat en sciences en 25, assistante de sa mère, vous voyez, à l'Institut du Radium, et elle rencontre Frédéric Joliot, donc elle épouse en 1926. Elle est maître de conférence au Collège de France, professeur sans chaire après. Elle sera après la guerre donc directrice de l'Institut du Radium, l'institut qu'avait créé Marie Curie, et elle occupera la chaire de physique générale et radioactivité dont sa mère avait été la première titulaire. Et je vous disais tout à l'heure, si je connais bien cette histoire, c'est que moi j'ai été le cinquième en fait à occuper cette chaire, derrière De Bierne. Et puis après, donc il y a eu Irène, la fille, Moïse Zinski et Georges Bouissière, et moi. Et quand j'ai été nommé au CNAM, eh ben, c'était devenu un poste budgétaire, hein, remarquez, c'était plus... mais c'était la continuité, en fait, de cette chaire. Et puis, ça a été supprimé, tout simplement. On a récupéré un poste, et donc j'étais le dernier, voilà. Donc voilà pourquoi je connais bien cette histoire aussi. Alors elle était aussi, vous voyez, sous-secrétaire, comme on disait à l'époque, sous-secrétaire d'État sous le Front populaire. Donc voilà les deux femmes au travail. Pendant la guerre aussi, ça vous savez sans doute, c'est ce qu'on a appelé les véhicules, les petites Curie, c'est-à-dire qu'elle a fait équiper des véhicules pour aller directement sur le front pour radiographier en fait des soldats qui avaient eu des éclats d'obus pour arriver à trouver la position de l'éclat d'obus et puis pour qu'on fasse quand même une chirurgie qui était moins invalidante que si, évidemment, on ne savait pas où chercher et on commençait à fouiller à l'intérieur de tout le corps. Donc, voilà les deux femmes, là, en tenue d'infirmière, et voilà, parce que je vous en reparlerai tout à l'heure, elles ont aussi fait la formation, ça, c'est des médecins radiologues américains, et donc, elle a fait la formation avec sa fille, hein, vous la voyez ici, là, avec Irène, voilà, et donc, elle a parcouru le front, elle a sauvé. Elle a sauvé des milliers de soldats, effectivement, de cette façon-là. C'est un autre aspect de sa vie. Alors voilà, lui s'appelait Jean, c'est un peu comme tout à l'heure Henri Becquerel, mais il se faisait appeler Frédéric. Donc ingénieur de l'école supérieure, maintenant ça s'appelle l'école supérieure de physique et chimie de Paris, docteur en sciences en 1930, professeur de chimie nucléaire au Collège de France. Alors à la fondation du CEA, il a été le premier haut commissaire, nommé par le général de Gaulle. Lui, il est arrivé à l'Académie des sciences. Alors, il avait le prix Nobel quand même depuis 23 ans. Hein. Et vous voyez, ça fait un peu mal, parce que quand vous regardez quand est-ce qu'il a été nommé, vous voyez, on se dit, oh là là, ils se sont dit, lui, il en a plus pour longtemps, là, il va mourir dans l'année, on va pas recommencer la même connerie qu'on a fait avec Marie Curie, on va se dépêcher de l'admettre à l'Académie. C'est un peu nul quand même, quoi, franchement. Bon. Bref, je passe. Donc voilà le couple au travail. Et donc, ils ont, je vous disais tout à l'heure, contribué à la découverte du neutron, 1932, la découverte du neutron. Oui, c'est une découverte relativement récente. Hein. Vous avez encore des gens qui sont nés en 32 ou même avant 32 et qui sont encore vivants. Ils sont nés, on ne savait même pas que le neutron existait. Donc ça ne les a pas empêchés de vivre, mais quand même, quoi. Hein. Bon. Et donc, à l'époque, donc, le béryllium, on appelait ça encore du glucinium. C'est l'élément numéro 4, hein, H, H, L, I, B, numéro 4. Donc, avec des alphas, ils trouvent l'émission d'un rayonnement très pénétrant, insensible au champ magnétique. Et à l'époque, si vous voulez, un rayonnement qui était insensible au champ magnétique ne pouvait être que neutre. C'est-à-dire ni positif ni négatif sur le plan électrique. Et une particule ne pouvait pas être neutre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était impensable à l'époque. Personne ne pouvait dire une particule peut être neutre. Donc ce qui pouvait être neutre, c'est un rayonnement électromagnétique, oui, comme la lumière, ou ça, c'est insensible au champ magnétique, mais une particule, non. Bon, là, les gens n'imaginaient pas ça. Ce n'était pas possible qu'on puisse avoir une particule neutre. Et donc voilà, donc ils trouvent un rayonnement très pénétrant, insensible au champ magnétique, et ils disent, bah, ça peut être qu'un rayonnement gamma, bah, une énergie terrible. Hein. Bon. Et ils font 4 publications que vous avez là, on ne va pas les détailler, mais vous voyez, sur le rayonnement, alors ils appellent le rayonnement gamma nucléaire, excité dans le glucinium, ça c'est Irène, 28 décembre 31. Excitation des rayons gamma nucléaires du bord par les particules alpha, c'est la même séance, et c'est Frédéric Joliot. Émission de protons de grande vitesse par des substances hydrogénées sous l'influence de rayons gamma très pénétrants. Alors ça, quand on connaît la réponse aujourd'hui, c'est évident, c'est un problème de boule de billard. C'est-à-dire que si vous prenez une particule neutre, comme le neutron, hein, j'avance un petit peu là, qui vient choquer un proton, bah, évidemment, mon proton, il recule. Mais un rayonnement gamma qui choquerait un proton, c'est une substance très hydrogénée, il n'y a aucune raison, aucune raison. Hein. Donc, vous voyez, là, bon, c'est pas parfait, mais enfin, ce sera parfait plus tard. Et absorption de rayons gamma de très haute fréquence par projection de noyaux légers, c'est pareil, aucune raison qu'un rayonnement gamma soit donc absorbé. On est donc là en février 32. Et alors, ça faisait des énergies, je vous le disais tout à l'heure, très très élevées. Selon l'expérience, c'était pas les mêmes énergies. Les publications que vous avez vues à l'Académie des sciences arrivent évidemment dans tous les laboratoires. Et donc, Rutherford, qui avait remplacé Thomson. Rutherford, en fait, c'était un Néo-Zélandais qui, à 16 ans, avait obtenu une bourse de la reine Victoria. Donc probablement que c'était déjà un très bon élève. Alors, faut imaginer à l'époque ce que c'est de venir travailler à Londres quand on est en Nouvelle-Zélande. Hein. C'est 4 mois de bateau, on a 16 ans, on ne sait pas quand on reverra sa famille, on débarque dans un milieu qu'on ne connaît pas, et il se retrouve donc dans le laboratoire de Thomson. Et là, quand on parle de ça, donc là, maintenant, donc Thomson a pris sa retraite, il est peut-être même déjà mort, j'ai plus les dates en tête, et donc, il fait comme on fait tous quand on dirige un laboratoire, c'est-à-dire il fait une réunion de laboratoire avec tous ces types, il a les publications des Joliot sous les yeux, et vous voyez ce qu'il dit ? C'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Et il dit, mais je connais bien les Joliot-Curie, ce sont d'excellents expérimentateurs, je crois dans les résultats, simplement, en fait, ils se plantent sur l'interprétation. Donc, j'accorde naturellement du crédit aux résultats des Joliot, c'est l'interprétation des résultats qui n'est pas bonne. Et il dit, vous arrêtez tous tout ce que vous faites là, et puis vous vous mettez là-dessus, et vous me trouvez une explication qui colle avec les résultats des expériences. Donc ils refont les expériences, ils retrouvent évidemment la même chose que les Joliot, il n'y avait pas de raison, et voilà, ils prennent comme hypothèse, ce qui était impensable à l'époque, mais du coup ça collait avec l'expérience, ça collait avec tous les calculs, que ben, s'il y avait une particule neutre, oui, ça existait, une particule neutre, ça expliquait d'ailleurs la masse des noyaux atomiques, la cohésion des noyaux atomiques, et donc, c'est le deuxième partenaire du noyau après le proton, qui, lui, était de charge positive et qui avait été mis en évidence par Rutherford en 1911. Donc, c'est la découverte du neutron, et on dit que c'est James Chadwick qui a découvert le neutron. Alors, évidemment, les Français, ça leur reste un petit peu en travers, parce que c'est quand même nos expériences, quand même. Ah oui, mais bon, voilà, on n'a pas su expliquer. Donc, historiquement, vous voyez, voilà, on a les trois partenaires sont là, découvert d'ailleurs par des Anglais à chaque fois, l'électron par Thomson en 97, le proton par Rutherford en 19 et le neutron par Chadwick en 32. Et alors, à l'époque, existait ce qu'on appelle les conférences Solvay. Alors les conférences Solvay, c'est les ancêtres de nos congrès internationaux aujourd'hui. C'est-à-dire Monsieur Solvay, qui s'était enrichi avec son procédé Solvay, avait dit ben, « je vais recevoir chez moi à Bruxelles, tous les ans, tous les physiciens et chimistes qui comptent dans ce monde, à mes frais, et pour qu'ils confrontent leurs résultats et qu'ils fassent avancer la science ». Et donc vous avez là la séance de 1911, donc où vous voyez Marie Curie ici, qui est la seule femme. Vous avez Einstein, qui était tout jeune, hein, vous voyez, à l'époque. Il y a Rutherford qui est là, enfin bref, bon, il y en a un certain nombre. Vous avez tous les noms ici, et comme vous aurez le PowerPoint, vous aurez tous les noms. Je vais passer un petit peu. Et donc, voilà, ces conférences Solvay existent à peu près à partir de ce moment-là. Alors, ils vieillissent un peu, vous voyez, c'est un peu les mêmes, là, mais les cheveux ont blanchi sous le harnais. Donc il y a encore une seule femme, Marie Curie, il y a Einstein, là, voilà, il y en a un certain nombre d'autres. Et puis on arrive à la conférence Solvay de 1933, c'est-à-dire juste après la découverte du neutron. Alors il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que le tour qui leur a été joué quand même au Joliot, c'est qu'ils se sont pressés de publier. Hein. Vous savez, bon, on va tous, les chercheurs, dans les congrès internationaux, et surtout quand on fait nos communications, on ne raconte pas ce sur quoi on est en train de travailler. C'est idiot. Bon, on parle de ce qu'on a fait il y a 3-4 ans. Hein. Et comme je disais toujours à mes collègues avec moi, c'est en fait le soir au bar de l'hôtel que vous apprenez les choses. Quoi, hein. Au troisième whisky, faut bien tenir le whisky. Quoi. Bon. Et au troisième whisky, quand vous discutez avec des collègues étrangers, vous finissez par savoir sur quoi ils travaillent. Hein. Mais autrement, dans la journée, non. Hein. Bon. Donc moi, j'ai légué mon foie à la recherche scientifique. Hein. Une fois, j'étais avec un collègue et il me dit « Mais dis donc, le salaud, là, il est en train de nous dire, c'était un Américain, il est en train de nous dire qu'il travaille sur cette molécule depuis des années. J'en ai parlé ce matin, et il a fallu que je lui écrive la formule, il m'a dit qu'il connaissait pas, etc. Et là, il est en train de me dire que ça fait 3 ans qu'il travaille dessus. » Ben, j'ai dit « Tu vois, voilà, faut mieux tenir le whisky que l'autre, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. » 1933. Alors, plusieurs nouveautés. Alors, tristesse aussi, vous allez voir. Donc, il y a plusieurs femmes, pour la première fois. Marie Curie est toujours là, mais la tristesse, c'est que c'est la dernière fois. Hein. Donc, elle va décéder l'année suivante. Lise Meitner, dont je reparlerai tout à l'heure, elle est là. Mais la fille Irène, donc Curie, est là. Son mari est juste derrière. Donc, voilà les nouveautés. Et là, évidemment, tout le monde parle du neutron. Parce que c'est la découverte. Et donc, les Joliot-Curie présentent des résultats qui montrent justement ce rayonnement très pénétrant. Et donc Chadwick nous a dit que ça pouvait être un neutron. Bon, voyons ça. Et alors, ils disent, voilà, quand on bombarde, en fait, de l'aluminium avec des alpha, eh bien, il y a peut-être bien émission de cette nouvelle particule qu'a trouvé Chadwick. Donc, le neutron. Ah, ben oui, ben alors là, tous les autres les regardent, parce que c'est des petits jeunes qui sont au congrès quand même seuls, et puis les autres, c'est tous des prix Nobel et tout. Et voilà que ces petits jeunes sont en train de leur dire que ben il y a un neutron. Mais s'il y a un neutron, ça veut dire que c'est du phosphore 30. Parce que, vous le savez, hein, il faut mathématiquement, voilà, si vous avez 31 ici, il faut 31 de l'autre côté. Et le phosphore 30, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter, quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter? Vous savez très bien que le phosphore 30, ça n'existe pas. Bon. Donc ils disent, écoutez, voilà, ce qui se passe en réalité, c'est pas du tout un neutron qui est émis, c'est un proton. Parce que si c'est un proton, ben, j'ai du silicium et pas du phosphore, j'ai du silicium 30. Et le silicium 30, lui, il est naturel. Donc vous nous racontez des histoires, ils comptent neutrons. Bon, alors les Joliot disent, ouais, peut-être, bon, on va regarder, vous voyez. Alors est-ce que c'est, voilà, 13 plus 2 qui donne 14 plus 1 ou bien 13 plus 2 qui donne 15 plus 0? Bon. Et peu de temps avant, Anderson, vous voyez, à l'époque, c'est vrai, les découvertes, c'est plutôt des gens jeunes hein, qui font ces découvertes, avaient trouvé ce qu'on appelle le positon, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire c'est la particule inverse de l'électron. L'électron, il est négatif, et le positon, il est positif. Mais autrement, ils ont la même masse, ils ont la même valeur de charge électrique, exactement, sauf qu'il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif. On ne savait pas que ça existait jusque-là. Par la théorie, on avait dit que ça doit exister, mais jusque-là, personne ne l'avait trouvé. Et Anderson, en fait, le trouve. Alors, les Joliot-Curie reviennent à la charge. Ils disent, ben voilà, 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 voilà. En fait, il y a bien le neutron, il y a bien du silicium 30, mais il y a aussi un positon. Et comme ça, en termes de charge, on est tranquille. En gros, neutron plus positon, c'est l'équivalent d'un proton. Donc, alors là, incrédulité générale. C'est-à-dire, tous, ils disent, bon, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter, quoi. Et vous voyez, finalement, c'est ce qu'écrivent les Joliot-Curie un peu plus tard dans leur mémoire. La grande majorité des physiciens présents ne crurent pas l'exactitude de nos expériences. Seul Bohr et Pauline nous apportèrent des encouragements. Bon, ça veut dire que c'est des vieux chercheurs qui disent, bon, les petits jeunes, faut pas les décourager. Donc, oui, c'est bien les gars, continuez, mais en fait, ils y croyaient pas non plus, quoi. Bon. Alors, on arrive au 11 janvier 1934. 15 heures. On est revenu à Paris. Joliot a repris ses expériences. Et donc, il renvoie toujours, il bombarde toujours de l'aluminium avec des particules alpha. Bon, il note à quel moment il récupère des trucs et tout. Bon, et puis, bah, il a un détecteur à positons, et son détecteur à positons, bah, il compte aussi, malgré tout. Bon, il y a bien des positons. Et donc, bon, bah, une fois qu'il a fait tous ses relevés et tout ça, bon, il arrête son expérience, c'est-à-dire qu'il retire le vide, en gros, qu'il y a dans son ampoule, pour arrêter les alphas. Bon. L'expérience est finie. Mais Frédéric Joliot avait cette phrase que j'ai essayé d'inculquer, moi, à tous mes étudiants-chercheurs que j'ai dans mon laboratoire. Il disait, il faut laisser la porte ouverte. Retenez ça si un jour vous devez faire la recherche. Ça veut dire quoi, laisser la porte ouverte? Ça veut dire, je suis en train de chercher quelque chose, mais je ne m'interdis pas de trouver quelque chose que je ne cherche pas. Il faut que je laisse la porte ouverte. En l'occurrence, ça voulait dire quoi? Je laisse la porte ouverte. Eh bien, il n'arrête pas son compteur. C'était idiot. La manip était finie. Donc il devait arrêter son compteur. Non, il n'arrête pas le compteur, dit-on. Il le laisse tourner. Il faut laisser la porte ouverte. Et là, qu'est-ce qu'il remarque? Eh bien, le compteur, eh bien, il continue à compter, alors qu'il n'y a plus d'alpha qui arrive, plus rien. Et en plus, alors, c'est bizarre, parce que cette émission, elle décroît avec le temps, comme si c'était une décroissance radioactive. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Donc, il ne sait pas. Alors, il devait... l'histoire dit que le soir, ils étaient invités, donc... Il ne peut pas recommencer sa manip, il n'a pas le temps. Et il y avait un jeune chercheur allemand donc, dans le laboratoire de Marie Curie qui était là. Et donc il lui dit, bah, écoute, vérifie le fonctionnement du détecteur, parce que soit c'est le détecteur qui ne fonctionne pas, qui me met n'importe quoi, soit si le détecteur fonctionne bien, alors c'est le prix Nobel. Et le lendemain matin, vous voyez, vendredi 12 janvier, il trouve un mot, le détecteur fonctionne parfaitement. Eh bien, les Joliot-Curie viennent de faire deux découvertes majeures. La première, c'est qu'ils viennent de démontrer que l'on pouvait créer de la radioactivité dans un élément stable, comme l'uranium. Ça, c'était l'aluminium, pardon, que j'ai dit l'uranium. Non, l'aluminium. L'aluminium, c'était l'aluminium tout à l'heure. Oui, oui. Et deuxièmement, ils viennent de découvrir un nouveau processus de radioactivité. Alors jusque-là, la radioactivité bêta, c'était l'émission d'électrons négatifs. Et puis là, on a émission d'électrons positifs. Donc du coup, la première bêta qu'on connaissait depuis Marie Curie, on l'appelle bêta moins, et celle-là, on l'appelle bêta plus, pour des positons. Donc voilà ces deux découvertes qui va leur valoir le prix Nobel de chimie 1935. Vous voyez comme ils sont beaux au milieu, là, c'est les deux au milieu, là. Donc en fait, ils avaient raison. Il y a bien émission d'un neutron, mais... Ça se faisait en deux temps. D'abord, on crée ce phosphore 30 qui n'existe pas sur la planète. Il a existé sur la planète au moment de la création parce qu'on a tout créé, évidemment, après le Big Bang. Hein. Sauf que ce qu'on a aujourd'hui, bah, c'est ce qui reste. Le reste, c'est désintégré. Et ce phosphore 30, évidemment, il s'est désintégré, il n'y en a plus. Donc, il recrée une radioactivité naturelle par des moyens artificiels, ce qu'on appelle radioactivité artificielle. Et ce phosphore 30 donne du silicium 30 avec émission d'un positon. Alors pourquoi prix Nobel de chimie? Parce que c'est une découverte de physique. Alors vous avez dit tout à l'heure que l'ambiance n'était pas très très bonne entre les labos, c'est-à-dire que c'est Chadwick qui avait découvert le neutron, mais il avait découvert le neutron en refaisant les expériences des Joliot quand même. Bon, donc du coup le comité Nobel, dans sa grande sagesse, il a dit bon, allez, hop, on va donner le prix Nobel de physique à Chadwick et puis on va donner le prix Nobel de chimie au Joliot-Curie. Alors, on s'est appuyé sur le fait qu'effectivement, c'était... Vous voyez, la période, c'est 3 minutes 15. Alors, période 3 minutes 15, ça veut dire qu'au bout de 3 minutes 15, il vous en reste que la moitié. Au bout de 6 minutes 30, il vous en reste le quart, etc. Hein. Donc, ça disparaît très, très vite. Donc, il faut aller très vite pour identifier le phosphore. Hein, puisqu'on l'identifie par la chimie, en fait. Bon. Donc, voilà, c'est parce qu'ils avaient utilisé des méthodes de chimie tout à fait modernes, récentes, etc., et mis au point d'ailleurs par Marie Curie au départ, qu'ils avaient pu découvrir ça. Donc, voilà. Alors ça, c'est amusant aussi. C'est pour montrer un peu les guéguerres, si vous voulez, entre chercheurs. Mais dans la publication des Joliot, donc toujours à l'Académie des sciences, il écrit « Il est sans doute possible de créer d'autres radioéléments en bombardant des corps avec des deutons, par exemple. » Alors, pour bombarder avec des deutons, c'est-à-dire des noyaux de deutérium, il faut un cyclotron, il faut un truc qui accélère. Il n'y avait qu'un seul cyclotron au monde, parce que on venait juste de l'inventer. Celui qui l'a inventé, c'est Ernest Lorentz, qui est là, vous voyez. Et donc, il n'y a que lui qui peut faire ça. La publication arrive, donc là, on est à Berkeley, hein, en Californie. La publication arrive donc à Berkeley. Ça tombe sur un petit thésard du labo qui était là, il lit ça, il dit « Oh là là, il faut que j'aille montrer ça à mon patron tout de suite. » Donc, il monte donner la publication à Lorentz. Lorentz le lit et il dit « Mais quand Joliot écrit ça, il pense à moi. Je suis le seul à pouvoir bombarder avec des deutons au monde entier. » Bombarder avec de l'aluminium, mais on a fait ça. Ça fait 3 ans qu'on en a fait des dizaines d'expériences et tout. Si vraiment il y avait eu un truc extraordinaire comme il vient de découvrir, on l'aurait découvert. Et donc il regarde ces processus d'expérience. Et il s'aperçoit de quoi ? Eh bien, il s'aperçoit qu'il avait fermé la porte, lui. C'est-à-dire que tous les appareils étaient sur le même disjoncteur. Et donc quand il arrêtait son cyclotron, tous les autres détecteurs, etc., tout était arrêté. Alors il dit, c'est pas vrai, on n'a pas été aussi con que ça, c'est pas possible, quoi. Bon. Donc il dit, on va refaire la manip, on va mettre les détecteurs sur une prise, on va faire fonctionner tout le reste de l'autre côté, et puis on va bien voir. Eh bien, il a vu, hein. Il a arrêté le cyclotron, et puis le détecteur à positon, il a continué à crépiter, et avec une décroissance tranquille. Hein. Donc vous voyez, il avait fermé la porte. Voilà. Autrement, il aurait découvert ça 3 ans avant les Joliot. Voilà comment on fait des découvertes. Hein. Donc, la boucle est bouclée, voilà. Donc, Irène et Frédéric Joliot donc, montrent que ce phénomène de radioactivité, en fait, touche toute la classification depuis le premier jusqu'au dernier. Alors, quand même, vous voyez, la conférence Nobel, Marie Curie avait dit ça, hein, des recherches récentes, donc récentes, on est en 1911, hein, ont montré que le potassium et le rubidium émettent un rayonnement très faible, c'est vrai, de façon naturelle, semblable au rayonnement bêta de l'uranium et du radium. Nous ne savons pas encore si nous devons envisager ces substances comme de vrais corps radioactifs, c'est-à-dire en voie de transformation atomique. Et puis, vous avez vu tout à l'heure, il y avait ce fameux fluoxyde tantalate de potassium avec son signal. Donc, on avait des signaux comme quoi, effectivement, ça pouvait toucher. Alors, voilà la classification d'aujourd'hui. Celle-là, peut-être, vous ne l'avez jamais vue. Parce que maintenant, vous voyez, on a tous les noms jusqu'au 118. Hein, le dernier étant Loganesson. Vous pouvez, si vous voulez briller dans les salons, vous pouvez demander à vos camarades autres, est-ce que tu sais ce que c'est que Loganesson ? Celui qui vous dira, ah ben oui, c'est le gaz rare, c'est l'élément 118 de la classification. Il n'est pas mauvais quand même. Hein. Bon, donc là, voilà. Tout ce qui est bleu est radioactif. L'uranium en blanc, c'est le dernier naturel qui a été découvert, 1925. Alors, ce que vous avez en vert ici, c'est ce qui existe sur la planète, qui est donc naturel, mais radioactif. Hein. Et puis ce que vous avez en orange, c'est ce qu'on trouve aussi donc dans certaines étoiles au moment de ce qu'on appelle les supernovées, c'est-à-dire l'explosion des supergéantes rouges. On trouve aussi ces éléments-là. Mais sur la planète, il n'y en a plus parce que leur durée de vie est trop courte. Et voilà, on est 4,5 milliards d'années après, hein, donc il n'y a plus rien. Mais il y en a même qui disent qu'on va jusqu'au curium, peut-être. Mais tout le monde n'est pas d'accord. En revanche, tout le monde est d'accord pour dire qu'on va jusqu'au plutonium. Je vais passer ça pour aller un peu plus vite. Alors, ça, c'est la dernière partie. J'en ai pas pour très très longtemps. Bon, pour l'instant, je suis à 1h10 de conférence, pas plus. Hein. J'ai commencé au quart. La découverte de l'énergie nucléaire, c'est-à-dire de la fission provoquée. Alors, c'est une histoire assez amusante, en fait, vous allez le voir. Donc, ça commence tristement avec la mort de Marie Curie. Donc, elle n'a pas vu le prix Nobel, ça, c'est la photo de transfert des cendres au Panthéon. Elle n'a pas vu le prix Nobel de ses enfants, mais elle a vu quand même la découverte de la radioactivité artificielle. Alors, les acteurs de la découverte donc, de cette énergie nucléaire, cette fission, ils sont là. Donc, vous avez deux physiciens, une physicienne, Chadwick Fermi, Liz Meitner, physicien, et Otto Hahn et Irène Joliot-Curie, des chimistes. Alors, ce neutron, donc je passe, je vous en ai parlé. Bon, en fait, l'avantage du neutron, si vous voulez, c'est qu'il n'a pas de charge, justement. C'est-à-dire que quand il s'approche d'un proton qui, lui, est chargé positivement, si c'est un proton, bah, évidemment, il va être repoussé. Mais si c'est un neutron et qu'il va suffisamment lentement, il va être absorbé par le noyau et vous allez faire un noyau avec un neutron de trop. Et un noyau avec un neutron de trop, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il transforme ce neutron en proton, c'est-à-dire que vous fabriquez l'élément d'après. Donc, vous voyez, si vous aviez du fer, eh ben, vous obtenez du cobalt, ça veut dire du nickel, du cuivre, du carbone, de l'azote, puis de l'oxygène, etc. Bon. Et donc, à partir de 1934, il est en Italie à l'époque, Enrico Fermi, qui est donc un physicien italien, entreprend de bombarder avec des neutrons tous les éléments de la nature qu'on peut trouver. Et puis, ben, ça lui fait des publications, des résultats, etc. Bon. Et puis, un jour, il se dit, mais je suis complètement idiot, là, je suis en train de perdre mon temps. Parce que bon, c'est bien, mais bon, c'est pas, ça me donne des éléments qui sont connus. Ce qu'il faut que je fasse, hein, c'est que je prenne le dernier des éléments, là, l'uranium, le Doser 92, et que je le bombarde avec des neutrons. Je vais avoir un neutron de trop, le neutron va se transformer en proton, et je vais fabriquer l'élément 93 que personne ne connaît. Personne n'a jamais vu ce 93. Je serai le premier à créer l'élément 93, et j'aurai le prix Nobel. Et c'est là que les ennuis de ce pauvre Enrico vont commencer. Donc voilà ce qu'il veut faire. Bon. Comment est-ce que vous pouvez prouver que vous venez de créer un nouvel élément? Ben, vous prenez de l'uranium, vous connaissez les propriétés chimiques de l'uranium, vous faites votre bombardement, et puis vous obtenez les propriétés chimiques d'un autre élément à côté. Ah, il n'y a pas que de l'uranium. Bon. Et pour peu que vous connaissez Mendeleïev, hein, pour peu que là où vous êtes, ben, ça soit des propriétés qui correspondent à peu près à cela, bingo, c'est gagné, vous avez fait le 93. Bon. C'est un physicien, lui. Donc, il ne peut pas faire l'étude chimique. Donc il est obligé de la confier à d'autres laboratoires. Donc il va confier ça au laboratoire d'Otto Hahn, en Allemagne, chimiste, et au laboratoire de l'Institut du Radium à Paris, d'Irène Joliot. Donc, pourquoi ces ennuis commencent? Bah, parce qu'il se passe quelque chose qu'ils ne pouvaient absolument pas imaginer. C'est qu'en fait, dans l'uranium, vous avez deux isotopes, et l'un des isotopes, en fait, bah, il se casse en noyaux plus petits, et des dizaines de noyaux plus petits, qui fait que bah, quand on va faire l'analyse chimique, bah, on va trouver toutes les propriétés chimiques de la classification. Et ça, personne ne pouvait imaginer qu'un noyau allait se casser en deux sous l'impact justement d'un petit neutron comme ça, tout gentil, quoi. Donc les trois derniers, voilà, les trois derniers sont là. Vous voyez, on peut en produire jusqu'à une centaine. Vous avez d'ailleurs ici, alors la classification n'est pas complète parce que j'ai la flemme de la refaire. Ça, c'est ce que vous avez dans du. C'est mon cours sur le cycle du combustible, ça. Donc, c'est ce que vous avez en produit de fission, produit d'activation dans un combustible nucléaire. Donc, vous voyez que ça concerne toute la classification, il y a de tout. Hein. Et donc, ils récupéraient tout, voilà, comme élément. Donc, vous voyez, les laboratoires s'en mêlent, et comme la langue française est bien faite, ben, les laboratoires s'en mêlent. Première hypothèse. Alors, on a tellement de résultats chimiques qu'on se dit dans un premier temps, ben, peut-être qu'on a produit non pas un, mais quatre éléments qui suivent derrière. Ce qui nous donnerait quand même pas mal de propriétés. Et on les appelle, vous voyez, parce que Mendeleïev avait prédit des propriétés d'éléments qu'on ne connaissait pas et les appelait Eka. Eka quelque chose, Eka silicium, ça veut dire que c'est un élément qui va avoir les propriétés de silicium. Donc on les appelait Eka rhénium, Eka osmium, Eka iridium, Eka platine. Bon, mais ça collait quand même pas. Alors, deuxième hypothèse, Otto Hahn pense qu'il a vu du radium qui est là. Et donc, s'il a vu du radium, on se dit, bah, Fermi, en fait, non, il n'a rien vu du tout. Et on a les descendants, de l'uranium. Parce que moi, j'ai vu du radium, dit Otto Hahn. Troisième étape, Irène Joliot-Curie annonce qu'elle a, elle, détecté du, ce qu'elle appelle du radiolantane, c'est-à-dire un isotope de lantane, donc radioactif. Idée jugée poliment absurde par les autres. C'est-à-dire que quand c'est arrivé dans les autres labos, on dit bah, « c'est n'importe quoi quand même. Comment est-ce qu'on pourrait avoir du lantane alors qu'on bombarde de l'uranium avec des neutrons ?» Et il y a même Otto Hahn, vous allez voir, qui fait un joli jeu de mots et il dit « ah, ben, voilà. Elle a inventé le curiosum. Irène. Irène Curie a inventé le curiosum. Alors, curiosum, vous voyez, entre Curie et curieux. Bon. Et Otto Hahn lui dit, parce qu'évidemment, quand Otto Hahn disait qu'il avait trouvé du radium, ça voulait dire que le radium, à l'époque, il était forcément avec du barium. On était toujours comme l'idée de Marie Curie. Vous précipitiez du barium, si ce barium était radioactif, c'est qu'il y avait du radium dedans. Et donc lui, il avait eu du barium radioactif. Et donc il avait dit, si mon barium est radioactif, c'est que j'ai du radium. Et Otto Hahn, donc, il dit, ben, voilà, je vais isoler, j'en ai marre de ce qu'elle raconte, Irène. Donc je vais lui montrer que j'ai bien du radium. Et au lieu d'avoir du mon radium dans le barium, je vais isoler le radium du barium. Ah ben tiens, il n'y arrive pas. Il a du barium. Et il n'a pas du tout de radium. Il a donc, elle a trouvé du lantane, et lui, bah, lui, il a trouvé du barium. C'est-à-dire qu'on trouve des éléments plus petits que l'uranium, comme si le noyau s'était cassé en deux, ce qui est absolument extraordinaire. Et donc, il fait une publication avec Fritz Strassmann, parce qu'entre-temps, Lise Meitner donc, est partie au Danemark pour des raisons sur lesquelles je ne peux pas m'étendre vu l'heure, mais je pourrais vous raconter ça plus tard. Si vous avez un peu de temps, je vous raconterai tout à l'heure. Et donc la publication, vous voyez, du 22 décembre 1938, dans Naturwissenschaften, sur la mise en évidence et le comportement de métaux alcalino-terreux lors de l'irradiation de l'uranium par les neutrons. Et alors là, vous allez voir, on avance à petits pas quand même. Hein. En accord avec Irène Curie, tiens, maintenant ça y est, ils sont d'accord. Et en tant que chimiste, nous devrions renommer le schéma proposé et mettre les symboles barium, lantane et cérium à la place de radium, actinium, thorium. C'est-à-dire, en gros, on pensait avoir ça et on a ça. En tant que chimiste. Mais en tant que... Les guillemets sont dans la publication. Hein, en tant que chimiste nucléaire, proche d'une certaine manière de la physique, parce qu'ils disent quand on va vers SEM, nos amis physiciens, ils vont nous allumer, quoi. Hein, bon. Proche d'une certaine manière de la physique. Nous ne sommes pas encore prêts à franchir ce pas, contraire à toutes les expériences connues à ce jour en physique nucléaire. Et il ajoute, mais on sent qu'il n'y croit pas vraiment, il serait encore possible, malgré tout, qu'une série d'improbables coïncidences ait entaché d'erreurs nos résultats. Bon. Quelques jours plus tôt, vous voyez... Donc Fermi, quand même, avait obtenu, non pas pour ça, mais pour tout ce qu'il avait fait jusque-là, le prix Nobel. Il était furieux de cette histoire. Il pensait que les chimistes lui sabotaient, qu'il avait effectivement découvert au moins l'élément 93 et l'élément 94, et que les chimistes étaient jaloux et avaient saboté et racontaient n'importe quoi. Et vous voyez, vous pouvez lire son discours Nobel, hein, vous l'avez sur Internet, hein, et vous verrez que là, il a le prix Nobel, il se lâche, et il dit, je crois que j'ai découvert, donc il dit une énorme connerie, hein, je crois que j'ai découvert deux éléments, qu'il appelle d'ailleurs ozonium et sperium. Ozonium, c'est le nom un peu, poétique de l'Italie, et sperium, c'est le nom grec. Il donne des symboles, d'ailleurs le ES sera réutilisé plus tard pour Einsteinium, et on a ça dans son discours Nobel. Mais effectivement, ce n'est pas ce qu'il avait trouvé. Alors, la réponse, elle arrive là. Vous avez vu, la publication est du 22 décembre. J'ai presque terminé. Elle est du 22 décembre, c'est-à-dire pratiquement à Noël. Otto Frisch, qui était un physicien nucléaire, que j'ai connu, moi, pas comme ça, mais bien âgé, mais il parlait bien français, était le neveu de Lise Meitner. Lise Meitner, donc, était réfugiée au Danemark parce qu'elle était juive et que l'époque, quand même, était très, très troublée. Elle avait été recueillie par Niels Bohr, et ça, c'est la grande famille de la physique nucléaire. Et elle invite son neveu à passer quelques jours de vacances chez elle. Et Otto Frisch raconte, il dit, ouais, j'arrive, et puis je vois Lise Meitner avec une lettre, complètement perplexe. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, lis ça. Donc c'est la publication du 22 décembre. Et évidemment, Otto Frisch lui dit, c'est aberrant, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et elle lui dit, ce qui est vrai, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans avec Otto Hahn, dans le même laboratoire. Je le connais, c'est quelqu'un qui est très prudent, c'est un excellent chimiste, il est très prudent, il a vérifié ce qu'il a écrit là-dedans des dizaines de fois, et s'il le met, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne peux pas imaginer que ce soit faux. Alors Frisch continue, il dit, c'était une belle journée, et il faisait beau, le soleil brillait, il y avait de la neige, et Lise Meitner dit, écoute, voilà, allez, on part se promener, on va faire un peu de ski, et on réfléchit à ça. Est-ce qu'un noyau d'uranium peut se casser en deux, même si c'est aberrant? Et en fait, alors ça vous le savez parce que je pense que vous l'avez déjà fait, effectivement, il suffit de vérifier que la somme des masses du neutron et d'uranium que vous avez avant est supérieure à ce que vous avez après pour que les réactions soient possibles. Ça ne veut pas dire qu'elle a lieu, mais ce n'est pas impossible, même si c'est aberrant. Tout simplement parce que vous avez la différence de masse entre les deux, c'est de l'énergie, c'est E égale MC2, donc c'est de l'énergie. Et si la réaction, c'est vrai aussi en chimie, hein, si la réaction dégage de l'énergie, c'est qu'elle est possible. Et donc ils partent, ils réfléchissent, et d'un seul coup, Lise Meitner dit « Ah, arrête-toi ». Alors elle dit, elle s'assied sur un sapin qui était couché, elle sort une feuille de papier, un crayon, puis elle fait un petit calcul, et elle lui dit « regarde, oui, il y a de l'énergie, c'est une réaction exothermique, donc c'est pas impossible qu'il y ait le noyau qui se scinde en deux ». Donc c'était effectivement la confirmation de cette fission. Le phénomène de fission spontanée, cette fois-ci, c'est-à-dire un noyau tout seul, sans qu'on le chatouille avec un neutron qui se casse en deux, c'est possible aussi, mais vous voyez, c'était découvert un petit peu plus tard par Georgi Flerov en 1940 sur l'uranium-238, cette fois. Mais c'est un noyau sur 2 millions hein, qui fait de la fission. Les autres font de l'alpha. Hein. Bon. Déjà, Ida Noda, qui a découvert l'uranium, vous voyez, l'élément 75 en 34, avait écrit, c'est assez curieux, lors de ces désintégrations nucléaires provoquées par des neutrons, il serait concevable que ces noyaux se brisent en plusieurs gros morceaux qui seraient certes des isotopes d'éléments connus, c'était le cas avec le barium et le lanthane, sans être voisins de l'élément irradié. Donc, voilà, elle avait écrit ça, c'est vrai. Hein. Et donc, en 39, vous avez... Le processus de réaction en chaîne qui se met, on est en 39, on est évidemment au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, vous avez les acteurs ici, de ça, et puis donc après vous allez avoir la bombe atomique. Alors on a l'habitude, je termine là-dessus, j'en ai pour une minute, de dire que la famille Curie, c'est la famille aux 6 prix Nobel. Alors pourquoi 6? Alors Marie Curie a eu 2 prix Nobel, Pierre 1, Irène 1, Joliot 1, donc ça fait 5. Hein. Alors le sixième, vous allez voir, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, ça aurait le coup d'en parler. En fait, Ève, la seconde fille, la sœur d'Irène, qui est morte, vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça, à 103 ans, hein, avait suivi sa mère lorsque... Alors, c'est la toute petite fille qui est là, ici, et elle a suivi sa mère lorsqu'elle était aux États-Unis. Elle est restée lorsque les Américains ont offert un gramme de radium à Marie Curie. Alors, cette pauvre femme, elle pleurait d'émotion parce qu'elle donnait un gramme de radium. Mais, franchement, alors, les Curie avaient ce raisonnement en disant « Nous ne prenons pas de brevets. » Elle pouvait prendre les brevets de l'élaboration et l'isolement du radium. Elle dit « on veut que la science profite à tout le monde. » « Ah oui, mais les Américains, ben, ils ont pris les brevets. » Et après, même nous, les Français, même Marie Curie, il fallait qu'elle rachète le radium aux Américains. Alors là, quand ils lui offrent un gramme de radium, bon, c'est gentil, mais bon, quand même, quoi. Bon. Bref, ça, c'est une interprétation personnelle. Hein. Bon. Donc, voilà, elle est reçue par le président des États-Unis en grande pompe ici. Et alors, Ève, donc, va épouser un Américain qui a pourtant un nom bien français, qui est Henri Labouisse. Et Henri Labouisse était président de l'UNICEF quand l'UNICEF a eu le prix Nobel. Et donc, elle s'est retrouvée... Voilà, j'ai terminé. Hein. C'est ça, parce que je sens que...
Ah,
à moi le quart ?
Non.
Ah oui, parce que là... Et donc elle s'est retrouvée sur les mêmes gradins au comité Nobel, etc., que sa sœur, son beau-frère et ses parents. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, et si vous avez des questions, si on a le temps, je ne sais pas, mais... Non, oui. Voilà, je vous ai raconté cette histoire.
Mauvaise manie d'étudiant, on n'a pas besoin de sortir en catastrophe, on attend de le voir tout de suite.
Non,
mais c'est pas méchant. Non, mais bon, donc on va laisser le temps aux questions. Moi, le directeur avait demandé de sortir rapidement. Alors,
j'ai une
question.
Faut croire que j'étais très clair, mais.
Ouais. Simplement, on voit quand même il y a beaucoup d'observations, mais il y a aussi des équipements pour faire des mesures. À l'époque, comment ils arrivaient à faire des étalonnages, voir le bon fonctionnement, tout ça. Ils avaient quand même pas mal d'équipements pour mesurer.
Oui. Oui, mais c'était donc, les premiers détecteurs, ben, vous avez sans doute connu cette chose. C'était des petites chambres à gaz, des manipulations qui étaient très simples en fait. Hein. Ces phénomènes ont été découverts avec des processus très simples. Alors, les derniers éléments de la classification que vous avez là, toute la ligne bleue là, qui commence au Rutherfordium à la ligne 104, là, après, ça fait intervenir, effectivement, des gros appareils, des gros accélérateurs, des énormes cyclotrons. Là, on change complètement d'échelle. Hein. Mais la découverte de ces éléments, là, en gros, jusqu'à l'uranium, là, l'histoire que je vous ai racontée, ça se faisait avec des appareils extrêmement simples. On peut bidouiller. Nous, on a fabriqué des petits détecteurs dans mon labo avec. Je vais schématiser un peu, mais c'est un peu ça. Hein, une boîte de conserve, une anode au milieu qu'on soudait, voilà, un gaz, et puis vous avez un détecteur. Hein. Donc, c'était pas plus compliqué que ça à l'époque. Hein. Mais évidemment, les découvertes étaient aussi plus simples. Bon, là après, quand on monte dans des énergies énormes, voilà. Comme le CERN aussi, où vous avez besoin à ce moment-là d'énergie énorme. Mais à l'époque, non, c'était pas si compliqué que ça. Oui ? Non ? Ah, deux.
Bonsoir, je voulais juste savoir l'équation E égale MC2, c'est qui l'a découvert ?
Einstein, c'est bien lui. C'est bien lui, oui, oui.
Bonsoir, j'ai une question qui ne concerne pas vraiment votre sujet, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait refaire des découvertes aussi fondamentales qui a pu avoir à l'époque, en fait, comme la découverte de l'atome, de sa constitution, etc.
Oui, 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 ma réponse est claire, oui, tout à fait. On n'a pas tout découvert, heureusement. Hein. Et plus on avance, plus on a des choses à découvrir. Donc, oui, oui, bien sûr. Et ceux qui vous disent qu'il faut des appareils de plus en plus compliqués, là, je parlais de ces éléments-là, mais je pense qu'il y a des découvertes à faire. Et ce que disait M. Evray, l'observation L'observation est très, très importante. Vous l'avez vu, hein, déjà, là, j'ai donné plusieurs exemples. Là, de... Il y en a un que je ne vous ai pas donné, c'est la découverte du radon, qui est donc le gaz rare, là, au Dossard 86. Ce radon, il est découvert par Rutherford, et simplement parce que Rutherford s'aperçoit qu'il a des sels donc, de composés de radium, et il y a une contamination qui se fait dans le laboratoire, sur la paillasse, les appareils, et cette contamination, elle est plus forte quand la fenêtre est fermée que lorsque la fenêtre du laboratoire est ouverte. Et rien que ça, il dit, ben voilà, je suis en présence d'un gaz radioactif qui doit probablement être, du coup, cet élément 86. Tout simplement parce qu'effectivement, ce radon, en fait, il a une durée de vie très courte, hein, de quelques jours. Donc, quand il est formé, ben, c'est du gaz, mais par alpha, il va donner donc l'élément deux fois avant, c'est-à-dire du polonium, qui lui, n'est pas un gaz, donc il se dépose. Bon, si la fenêtre est ouverte, ben, il y a une partie du radon qui part. Et si la fenêtre est fermée, ben, le radon, il reste. Donc la contamination est plus forte quand la fenêtre est fermée. Vous voyez, donc, voilà, ça, c'est de l'observation. Hein. Il fallait quand même y penser, quoi. E égale MC2, c'est 1905. C'est bien Einstein.
Oui, je reviens sur la question qui vient d'être posée, là. Fascinante en fait, qu'un jeune pose cette question dans une époque où aujourd'hui, il vient d'aller le principe de précaution qui est particulièrement prégnant en France, pas ailleurs. Vous savez qu'il y a plein de chercheurs qui sont obligés de s'expatrier pour faire des années, ouais. Qui ne peuvent plus faire en France, ils vont les faire aux États-Unis, en Chine, dans tout un tas de pays où là, on peut refaire de la physique, de la chimie, comme l'ont fait les Curie, on se dans les mains, etc., en découvrant des gaz qui se déposent, ce qui aujourd'hui en France n'est plus possible. Est-ce que vous pensez que si on intègre cette notion qui est une notion politique, est-ce que vous répondriez de la même façon à la jeune personne?
Alors, oui, parce que moi j'ai répondu sur un plan international, sur un plan mondial. La recherche, c'est la recherche. Donc, mais je suis d'accord avec vous. Je pense qu'en France, on aura beaucoup de mal. Mais ailleurs, juste pour vous dire, une fois, donc, on m'a invité à inaugurer le laboratoire de radiochimie à l'université de Las Vegas, parce qu'il y a une université à Las Vegas. Donc, un laboratoire de radiochimie où ils avaient donc des quantités de ces éléments-là, plutonium, même californium, etc. Bon. Quand on voit chez nous, là, au CEA, on a un bâtiment qui s'appelle Atalante à Cadarache, les précautions qu'il y a donc, pour quelques milligrammes de trucs, bon, là-bas, là, c'est comme vous ouvrez votre porte là, vous avez votre badge, claque, vous ouvrez la porte. Bon. Et j'étais avec un de mes collègues qui était le directeur des recherches d'Areva à l'époque, qui était Jean-Louis Nigon, qui comprend beaucoup mieux l'américain que moi. Et puis, bah, il demande combien vous avez de grammes d'américium, là. Et le gars dit, bah, on a 3 grammes. Et bah, c'est la seule fois où Nigon n'a pas compris. Il a fait répéter, il avait compris 3 milligrammes, lui. Moi, j'avais bien entendu 3 grammes. Et le gars a répété, on a 3 grammes. Bon. Et resté, mais en France, c'est impossible, quoi. Bon. Et l'Américain nous a dit, est-ce qu'il y a un danger, là, des précautions qu'on prend? Est-ce qu'on ne prend pas assez de précautions? Et nous, qui avons travaillé là-dedans, on a dit, bah, non, effectivement, vous travaillez très bien, il n'y a aucun problème. Sauf que chez nous, ce sera impossible. Oui, bien sûr. Donc, voilà. C'est comme ça. Le réacteur du MIT, moi, j'avais mon élève qui avait travaillé là-bas. Quand j'étais allé la voir, par sa fenêtre, on voyait le dôme du réacteur de recherche, hein, du MIT à Boston. Et puis derrière, c'était le parking du McDonald's. Hein. Bon, et si vous posez la question, est-ce qu'il y a un danger? La réponse est non, il n'y a pas de danger. Allez faire ça en France, allez voir. Donc du coup, il y a de moins en moins de ces petits appareils, etc. Moi, mais je pense qu'on peut découvrir des choses, oui, mais en France, voilà, on aura beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais bon, la recherche, voilà, on est au niveau dessus, quoi. Voilà.
Oui, pour revenir à la question, pourrait-on faire, bon, en dehors du principe de précaution, bon, ça a été commenté, je voudrais quand même faire une observation qui a été dite, mais qui n'a pas été prise. Les 6 prix Nobel, c'est une seule école. L'école de physique et de chimie de Paris,
ah oui,
qui a un statut tout à fait particulier et exotique dans le paysage français. Et elle est recordman, si on peut appeler ça comme ça, des prix Nobel.
Ah ben oui, parce que Degène était directeur de l'école.
Et on peut se poser la question.
Et Charpak a travaillé aussi.
Comment se fait-il qu'une seule école parmi l'éventail, Dieu sait si on est équipé en France, de grandes écoles, ait ce palmarès absolument extraordinaire. C'est comme en médecine, la seule école qui a beaucoup de prix Nobel, en dehors de l'Institut Pasteur, c'est la Fac de Strasbourg. Donc c'est quand même curieux, et ça on pourrait vous faire une conférence là-dessus, parce que cette école, elle ne fait pas partie de l'éducation nationale. Elle ne fait pas partie de l'éducation nationale, son autorité de tutelle, c'est toujours, en 2017,
la ville de Paris. Oui, oui.
La ville de Paris.
C'est toujours municipal, quoi. Même si c'est supérieur.
Il y a eu aussi le prix Nobel qui s'est battu comme un beau diable contre Chirac pour empêcher le phagocytage de cette école, parce que cette école a une particularité qui ressemble un petit peu à ce que j'ai connu des arts, puisque je suis d'Alsace, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, 1961. Donc, d'accord, merci.
Il est toujours là, quand même.
Il est toujours là, je ne suis pas radioactif, je vous en tout de suite.
Si, comme nous tous.
D'accord, bon, 50 000 becquerels et on y en pote. Cette école-là, elle a dans son ADN 50% pratique, 50% théorie. Et c'est comme ça depuis le début. Et cette école vient d'où? Elle vient des immigrés de Mulhouse, qui, après la guerre de 70, n'avaient pas voulu rester dans l'Empire germanique et qui sont venus refonder une école de chimie à Paris, française, on va dire, et qui a gardé les pannes de M. Schultz, ça s'est passé à l'école de chimie.
Oui.
Et regardez du côté anglais la brochette là que vous avez montrée.
Oui.
Il n'y en a pas 36, c'est le laboratoire Cavendish de Cambridge.
Mmh.
C'est Cavendish, Cavendish, Cavendish et Cavendish. Et il se passe des choses à Cavendish. Et la découverte de l'ADN, c'est à Cavendish. Donc il y a un truc qui est lié à l'école, bien sûr. Ces scientifiques sont extrêmement prestigieux. Et à la limite, ils auraient pu faire tout ce qu'ils ont fait ailleurs. Mais je pense qu'il y a un terreau.
Ah oui, c'est sûr, oui.
Est
oui
tout à fait favorable.
Oui.
Le fameux hangar qui est bien décrit dans les palmes de M. Schultz, on les a mis dans un coin. On les a quand même mis dans un coin.
Oui,
et
oui.
On leur a laissé faire ce qu'ils avaient envie de faire. Essayez d'imaginer ça, même au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, dans aucune autre école française. Donc, je sais ma théorie et je la partage, d'accord. Et donc, je pense qu'il y a, en dehors du talent qui est incontestable de tous ces grands scientifiques, il y a un terreau favorable. Je le dis aussi pour les responsables de l'éducation ici. La recherche, il y a l'organisation, il y a la qualité, mais il y a le terrain, l'environnement, la sociologie, j'allais presque dire, des chercheurs. Alors, je ne vais pas faire la morale aux autres, mais c'est un constat qui est quand même troublant. Combien il y a de polytechniciens qui ont le prix Nobel? Zéro, à ma connaissance. Combien il y a de normalistes supérieurs?
Ben si, il y avait Becquerel quand même.
Oui,
ouais,
mais
Becquerel.
Oui, Becquerel. Il n'était pas polytechnicien.
Ah si.
Il était polytechnicien. Je crois que c'était le père qui était polytechnicien.
Non, tous. Ils ont tous fait polytechnique jusqu'au petit-fils, l'arrière-petit-fils.
Oui, ils n'ont pas fait leur recherche dans le cadre de l'école polytechnique.
Ah non, non.
Voilà, d'accord, c'est ce que je voulais dire. dire. Normal Sup, Louis Debreuil. Okay.
Ah bah oui.
Enfin bon,
oui,
c'est
oui.
Bien, il y a une ligne. Hein
oui, oui. Non mais après, si.
Donc citez-moi des facultés françaises ou des grandes écoles qui ont une collection. Et d'ailleurs dans les fameux classements PISA, on nous sort ça en nous montrant du doigt en disant sortez-moi la liste des Nobel. Où sont-ils les Nobel? Vous allez à San Diego, il y a le Nobel Drive. Et là, il y a du Nobel au mètre carré. Hein, voilà. Hein. Ben, chez nous, ça n'existe pas. Voilà. Quand tu auras l'avenue des Nobel dans le campus de, je ne sais pas quoi, Sophie Antipolis, et quelque chose aura changé dans le Royaume de France. Voilà, c'est mon avis, et je le partage. Donc, la question, à mon avis, était pertinente. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça. Il y a des contraintes liées à des problèmes juridiques, on va dire, mais il y a également des interro favorables à la recherche, au-delà du talent individuel des chercheurs.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a épuisé à la fois l'ordre du jour et les...
Et les intervenants. Et les intervenants. Donc on applaudit à nouveau notre ami. Bon. Donc, j'enverrai le lien, donc je vais charger, comme on a convenu, on va... C'est gratuit et c'est fait pour ça. Voilà. On va être pour tous. Et il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de droit d'auteur.
Je vous remercie. Je voulais simplement pour compléter, donc je remercie à tous d'avoir participé à cette semaine de l'industrie. Pour les conférences, dans le cadre des conférences habituelles, on va s'arrêter là. On reprendra donc la programmation à partir de la rentrée prochaine. Je voulais simplement compléter avec une ouverture d'une conférence qui n'était pas prévue, qui n'a pas été annoncée, donc avec une collègue enseignante en matériaux, donc Isabelle Dubon, qui propose une conférence avec, à t'ouvrir, la conférence qu'elle organise pour ses étudiants, lundi 27 mars à 13h30 sur la construction métallique du 21e siècle. Donc si des personnes sont intéressées pour assister à cette conférence, la construction métallique du 21e siècle, de véritables challenges pour les ingénieurs, avec Jean-Pierre Museau, c'était un conférencier qu'on a accueilli déjà la dernière et les précédentes, qu'on avait ouvert en public. Là, ça n'a pas été annoncé. Donc, c'est ce lundi, à 13h30, en amphi-2. Si quelqu'un d'entre vous est intéressé, je vous demande de vous arrêter vers moi pour prendre votre inscription.